Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du Grand Amour en direct du Salon Livre Paris. C'est le 10e anniversaire de l'émission, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Et pour cet anniversaire, Irène Omelianenko et Dominique Rousset nous ont gentiment laissé leur place aujourd'hui. Vous retrouverez sur les docks et les carnets de l'économie dès lundi prochain. Alors mettons tout de suite les choses au clair, Du Grain à Moudre n'a pas exactement 10 ans puisque la première émission remonte au 28 août 2006. En revanche, c'est bien la 10e saison qui est en cours. Alors voilà une bonne occasion de faire parler de nous. C'est ce que nous nous sommes dit en début d'année, en constatant notamment que Le Grain souffrait d'un léger manque d'exposition médiatique. Vous vous souvenez peut-être de l'humoriste Marianne Sergent qui avait intitulé un de ses spectacles « 30 ans de carrière sans passer chez Drucker ». Eh bien, nous, ce serait plutôt 10 ans de débat et rien dans Télérama, Télérama étant un des rares journaux à parler régulièrement de radio. Alors, il fallait conjurer le sort en créant un petit événement. Nous avons fait un brainstorming, on s'est dit « c'est la 10e saison, 10 c'est un chiffre rond, fait-on ça au Salon du Livre ». Voilà, autant le dire tout de suite, pour Télérama, ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas depuis que je fais cette émission, c'est-à-dire depuis 5 ans, mais ça n'est pas grave, car la vraie raison de fêter ces 10 ans, c'était l'occasion de réentendre ça. Bonjour Julie Clarigny.
Bonjour.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Hervé.
Julie Clarigny, rédactrice en chef adjointe au Monde des Livres. Brice Couturier, éditorialiste au Matin de France Culture. C'est vous les créateurs de cette émission du Grain à Moudre. C'était il y a 10 ans. Vous l'avez co-animé pendant 5 ans. Enfin, pas tout à fait 5 ans pour vous, Julie Clarigny, puisque dans les derniers mois, c'était Louise Touré qui vous avait succédé. Alors, on va parler des débuts de cette émission, mais je voudrais d'abord, moi, savoir qui est responsable de ce premier générique, puisque ce qu'on entend là, cette version de Yellow Submarine, c'était le premier générique du Grain, Brice Couturier.
J'en suis responsable, c'est mon choix et je l'assume parfaitement. Il s'agit d'un quatuor slovaque. Et on avait choisi cette émission, ce générique en accord avec Julie, auquel j'ai proposé beaucoup d'autres génériques. C'est celui-là qui a retenu son attention. Pourquoi ? Parce que l'émission se voulait une référence au salon du XVIIIe siècle, à leur politesse, hein, un quatuor à cordes, ces quatre personnes qui discutent ensemble de manière modérée, intelligente et de préférence éclairée. D'autre part, il y avait une idée aussi de second degré. Évidemment, on voit bien les Beatles réinterprétés par un quatuor à cordes. C'est quelque chose de léger, d'ironique et d'amusant. Et donc, on voulait aussi que cette émission ait cette légèreté dès le départ. Et c'est pour ça que Julie avait accepté ce choix.
Laissez-lui dire si c'est vrai qu'elle avait accepté. Vous confirmez ça,
Julie? Je me souviens parfaitement d'une séance d'écoute où on avait, avec le réalisateur de l'époque, cherché l'émission qui nous convenait le mieux. Et je pense que le second degré, c'était très important. Ça a toujours été, dans les quelques années où on a animé Le Grain, pour Brice et moi, quelque chose d'essentiel.
Alors, je dois dire que quand Olivier Poivre d'Arvor m'avait proposé de vous succéder, je lui avais dit « Ok, on garde le titre du Grain à Moudre, c'est un excellent titre. Mais alors, pitié, changeons de générique. » Alors moi, je ne suis pas allé dans le second degré ni dans la réflexion sur le quatuor à cordes. On a pris quelque chose qu'on considérait peut-être comme un petit peu plus moderne. Enfin bon, on ne va pas totalement se fâcher tout de suite entre nous trois. Le titre d'ailleurs du Grain à Moudre, titre emprunté à André Bergeron, Julie Clarigny.
Oui, alors ça, c'est Marc Vincher qui l'a trouvé. Hein. On cherchait. Moi, j'étais venue avec l'idée qu'il fallait quelque chose du genre matière à penser. Il faut donner matière à penser. Et Marc Vincher, qui est assez doué pour ce genre d'exercice, est revenu un lendemain, il a dit « ce sera du Grain à Moudre ». Voilà. Et ensuite, on s'est souvenu qu'effectivement, ça avait été un ou fait syndical à un moment de l'époque politique française.
Est-ce que tu vous souvenez dans quelles conditions a été créée l'émission? Enfin, pour quelles raisons? Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'émission de débat à l'époque sur France Culture?
Bah, je vais tout vous dire, le dessous des choses. David Kessler voulait faire une émission de débat.
Alors, David Kessler, un de nos anciens directeurs,
il trouvait que ça manquait. On lui a demandé qui est capable de faire ça dans l'équipe de France Culture actuellement. On lui a dit, il y en a deux, mais Brice Couturier, il est un peu trop à droite. Julie Clarigny, elle est un peu trop à gauche. Et il a dit, justement, c'est comme ça que ça marchera. C'est une très bonne combinaison.
Vous vous souvenez, Julie Clarini, de cette période?
Oui, je me souviens très bien. Faut quand même rendre grâce à effectivement David Kessler et Laurence Bloch à l'époque, parce que c'était une période où les idées se vendaient pas comme aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les hebdomadaires, pour vendre, ils mettent des idées des dix philosophes, des prétendus sociologues partout sur les unes. À l'époque, c'était pas ça, et effectivement,
donc,
avoir
plus
l'idée.
C'était difficile de faire l'émission à l'époque que maintenant.
Non, je crois pas. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'à l'époque, avoir l'idée qu'il fallait du débat, c'était sans doute plus original qu'aujourd'hui où les choses ont un peu changé.
Est-ce que l'un de vous deux peut me dire quel était le thème de la toute première émission que vous avez faite le 28 août 2006 ?
Ça avait trait au Liban, non ?
Oui, Liban, une armée régulière peut-elle défaire une milice armée ? Vous aviez trois invités, Dominique David, Jean-François Daguzan et Frédéric Cancel. Alors, je ne vais pas vous demander de refaire le débat. Est-ce qu'en revanche, il y a une émission qui vous a particulièrement marqué, Julie ?
Oh oui, il y en a certaines. Bon, il y en a certaines qui ont été très théâtrales. Il y a une émission qui m'a marquée, c'est celle qu'on avait faite avec Stéphane Hessel et Brice Hortefeux à l'époque sur l'identité nationale. C'était quand même pas mal du tout. Et j'ai le souvenir que Brice Hortefeux, qui était quand même un ministre qui maniait bien le verbe, s'était fait complètement écraser par Stéphane Hessel. C'était assez plaisant, je dois dire, de mon point de vue. J'ai le souvenir aussi de l'émission entre Sylviane Agacinski et Virginie Despentes, où Virginie Despentes n'est jamais venue. Voilà, on a quelques souvenirs puissants aussi.
Voilà, des moments de grand vide, hein, de grand désespoir quand on a ce genre de mésaventure. Quand on vous a posé la question, Brice Couturier, vous nous avez renvoyé à une émission du 12 juin 2007. Le titre de l'émission, c'était « Peut-on défendre l'indéfendable ?». Il y avait trois invités, le philosophe Philippe Reynaud, l'avocat Yves Repiquet et un autre avocat très en colère après les deux animateurs, Jacques Vergès.
Puisqu'on parle de l'Algérie, le 8 mai 45. Quand on célèbre à Paris la capitulation allemande, et ça, on voit ça dans le film de Barbara Schroeder, que vous n'avez pas vu. Vous me discutez d'un film que vous n'avez pas vu, monsieur. Bon. Et donc, c'est une manière étrange de discuter. Mais enfin, c'est France
Culture. Je lis votre livre.
Pardon? Mais je n'ai pas vu le film. Et le film complète le livre. Et aujourd'hui, nous parlons du film aussi. Et vous parlez d'un film que vous n'avez pas vu. C'est ça, la liberté de la discussion. Bon. Et c'est ça votre bonne foi. Vous êtes de mauvaise foi. Je vous le dis en plein. Bon. Alors donc, dans ce film que vous n'avez pas vu...
Julie l'a vu.
Que vous n'avez pas vu, c'est vous qui parlez. Alors taisez-vous à ce moment-là sur ce film.
Je n'ai pas parlé du film, je vous ai
oui,
fait...
Oui, mais moi je parle
je
du
vous
film.
Vous avez fait trois citations,
vous ne pouvez pas séparer le film du livre.
Je n'ai pas cité de votre livre, je vous ai cité de votre
mais
livre.
Mais dans le livre, je parle du 8 mai 45 aussi. Bon, et aujourd'hui la réunion a lieu pour parler du film et du livre. Bon, alors vous parlez de choses que vous n'avez pas vues. Bravo. Et bravo.
Alors, ce qui est original, en tout cas, chez vous, Maître Vergès, et c'est une façon de donner la parole à Yves Repiquet, qui n'a pas encore parlé depuis le début de cette émission, c'est que vous avez choisi de défendre des gens qui sont très contestables, voire des criminels notoires, tout au long de votre carrière. Enfin, surtout à la fin, vous vous êtes fait remarquer par des défenses assez provocantes. Je rappelle juste peut-être celle de Saddam Hussein dans les dernières, qui sont très étonnantes. Klaus Barbie dans les années 80, Faurisson ensuite. Alors, ça pose la question, Yves Repiquet.
Alors, vous arrête de vous parler de Faurisson, j'ai jamais défendu Faurisson.
Ah, excusez-moi, alors moi j'ai vu le film et j'ai vu apparaître Faurisson dans le film.
Mais vous avez peut-être vu apparaître Faurisson, mais maintenant, je me demande si je dois continuer à discuter avec vous. L'un discute à propos d'un film qu'il n'a pas vu, l'autre me fait défendre Faurisson que je n'ai jamais défendu. J'ai rien à foutre chez vous.
Bon, je m'excuse,
alors vous réunirez
de mon erreur.
Oui, pour discuter avec vous, mais votre discussion est infecte. Bon. Et vous êtes de mauvaise foi. Et vous déshonorez la culture française.
Bah écoutez, Monsieur Vergès, c'est dommage parce que justement, je voulais en venir à la question de...
C'est dommage, mais je ne peux pas discuter dans des conditions pareilles. L'un discute à mon sujet à propos d'un film qu'il n'a pas vu. Et l'autre me fait défendre Faurisson que je n'ai jamais défendu.
Excusez-moi, c'est une erreur de journalisme,
mais
vous savez bien que ça existe.
C'est une erreur révélatrice de votre mentalité.
Bon, alors, excusez, voilà.
Bonne discussion, mais sans moi.
On peut toujours discuter de vos œuvres en votre absence.
Appelez désormais des bénis oui-oui pour applaudir vos mensonges.
Non, mais c'est la contradiction.
Mais c'est pas la contradiction, c'est le mensonge.
Non, mais
c'est
vrai.
Vous êtes là pour le dire, que c'est une erreur, absolument.
Mais l'un parle d'un film qu'il n'a pas vu, l'autre ment.
Brice n'a pas parlé. Écoutez, monsieur Vergès.
Non,
Brice n'a pas parlé.
Alors vous présentez vos excuses, l'un et l'autre.
Une seule fois. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas évoqué une seule fois.
Mais moi, chaque fois, vous avez la capacité, et nous la connaissons, de répliquer. Vous avez la capacité de répliquer.
Je ne vais pas répondre à des gens de mauvaise foi.
Mais. Vous pouvez tout à fait répondre.
On n'est pas chez les Khmer Rouges ici, donc vous expliquez ou vous expliquez pas. Mais effectivement, nous, on ne se laisse pas traiter de cette façon-là non plus.
Mais si, vous mentez. Vous avez menti en faisant défendre Faurisson, et vous parlez d'un film que vous n'avez pas vu.
Vous êtes là pour rectifier, monsieur Vergès. On a eu la décence de vous inviter.
Des chiens de garde. Alors, aboyez, mais sans moi.
Bon. Alors, justement, moi, je voudrais poser une question que pose le parcours de Maître Vergès. Je vais la poser à Yves Repiquet. Et il s'en va et la porte claque.
Bon. Et la porte claque. Alors, on ne va pas abuser de rediffusion d'archives dans cette émission parce qu'on a envie quand même de vous entendre. Mais celle-là, je dois dire qu'on avait vraiment envie de la passer dans sa quasi-intégralité. Brice Couturier, j'imagine que vous vous en souvenez. Peut-être que vous ne vous en souveniez pas comme ça. Alors, vous êtes de mauvaise foi. Il vous avait quand même bien cerné, Jacques Vergès.
Non, parce que, comme Julie l'a répété, vous l'entendiez à l'instant, je ne lui ai pas une seule fois parlé de son film. Je lui ai parlé de son livre que j'avais lu.
Est-ce que vous l'avez vu depuis le film, d'ailleurs?
Oh non, parce que les œuvres de Maître Vergès ne m'intéressent pas plus aujourd'hui qu'hier. Je suis désolé de parler d'un mort dans ces termes-là, parce qu'il ne peut pas se défendre. Mais enfin, vous savez bien comment était Vergès. Il adorait mettre en scène des pseudo-scandales.
C'est ce qu'il appelait la stratégie de la rupture. Oui, il arrivait dans les tribunaux, il faisait la même chose. Donc, de toute façon, il aurait trouvé un prétexte ou un autre pour faire son numéro. Il faut dire qu'il est sorti une première fois, qu'il a été convaincu par la direction de revenir et qu'il est ressorti une deuxième fois pendant l'émission.
Ça vous arrivait souvent, ce genre de choses, des invités qui sortent?
Non, je crois que ça a été l'unique fois où on a vécu ça.
Des invités donc qui parfois n'arrivent pas, des invités qui sortent, c'est vrai qu'heureusement que ça n'arrive pas souvent. Bonsoir Raphaël Yogier.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe. Bonsoir Ana Navarro Pedro.
Bonsoir.
Journaliste pour un hebdomadaire portugais, Vijao.
Exact.
Et bonsoir Gérald Brunner, sociologue.
Bonsoir.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors puisque j'explique, hein, au fur et à mesure de l'émission, on va avoir certains des invités qui viennent régulièrement débattre dans Du Grain à Moudre, et vous en faites partie de ces invités récurrents, non récurrents, c'est beaucoup dire. On essaie de ne pas avoir des invités plus de deux fois par an pour quand même avoir un petit peu de renouvellement. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de quitter un plateau? Alors pas Du Grain à Moudre, puisque de mémoire, en tout cas, ça n'est jamais arrivé. Mais de quitter un plateau de débat, Gérald Brunner?
Bah écoutez, non, ça ne m'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps chez vous, j'ai débattu avec Rouillan à votre demande d'Action Directe. Vous avez vu, je suis resté calme comme un sphinx, donc je pense que je suis un peu à l'épreuve de ça.
Je dois dire que j'ai été assez surpris que vous acceptiez. Donc, alors Jean-Marc Rouillan, faut rappeler, hein, c'était un des leaders d'Action Directe, groupe terroriste qui œuvrait à la fin des années 70, début des années 80. Et vous êtes venu pour une émission dans laquelle on posait la question suivante: jusqu'où pousser le concept de déradicalisation? Qu'est-ce qui fait que vous, sociologue, vous acceptez de venir comme ça débattre avec un personnage encore sulfureux, si j'en juge par les nombreux courriers que j'ai reçus ensuite me disant pourquoi vous avez invité un terroriste?
Écoutez, pour ne pas trop me donner le beau rôle, je dirais qu'il y avait peut-être chez moi aussi une forme de curiosité, et qui n'est pas forcément tout à fait saine. Mais en même temps, vous l'aurez remarqué, j'accepte volontiers les débats. Avec n'importe qui, je ne vais pas non plus n'importe où, mais je considère que c'est quand même une forme de reconnaissance qu'on me demande de venir débattre. Mais par exemple, Cyril Hanouna m'a invité dans une de ses émissions, je n'y suis pas allé, vous voyez.
Donc, en fait, il vous a invité pourquoi, Cyril Hanouna?
Pour parler des fantômes, je ne sais pas quoi, j'ai pas vraiment compris.
Raphaël Yogier, vous, ça vous fait peut-être un point commun d'ailleurs avec Gérald Brunner, je dois dire, vous êtes un des invités qu'on n'a pas besoin de convaincre très longtemps pour qu'ils viennent débattre dans une émission. On n'est pas obligé absolument de dire non, ne vous inquiétez pas, même si la personne en face de vous, elle ne pense pas la même chose, vous verrez, ça se passera bien. Vous êtes plutôt du genre presque à demander à ce qu'il y ait une forme de confrontation.
Ça m'arrive, disons, mais ça m'est arrivé aussi ça m'est pas arrivé de partir d'une émission, mais ça m'est arrivé de désirer partir d'une émission. Mais je suis pas allé jusque là, disons, mais
est-ce que c'était une émission du grain? Vous pouvez nous le dire maintenant.
Non, je
le
garderai pour moi. Mais non, oui, bah, disons que je pense que quand on vient dans une émission, c'est pour débattre et quelquefois la confrontation peut être heuristique dans certaines limites. Mais c'est sûr que ce que je n'aime pas, c'est quand les termes du débat sont déjà fixés et en fait quand on est censuré implicitement. Il y a certaines émissions, et c'est pas le cas de la vôtre, où on a droit à une discussion avec les producteurs pendant une heure pour savoir exactement ce qu'on va dire, pour savoir ce que l'autre va dire, et finalement le débat se fait en dehors du plateau. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'essaye d'éviter absolument. En revanche, dans une émission comme Le Grain à Moudre, effectivement, en général, vous nous connaissez un petit peu, vous nous invitez parce qu'on a des positions qui peuvent être des positions légèrement différentes, voire antagonistes. Et pour moi, ça me va très bien. Si on n'est pas dans l'échange d'opinions, mais qu'on est dans l'échange d'idées, même idéologiquement indexées, ben je trouve que c'est bien.
Adana Varro-Pedro, je ne sais pas si vous participez à beaucoup d'émissions en dehors du Grand, mais vous êtes un peu notre...
Un certain nombre.
Voilà, vous faites partie un petit peu de nos chouchoutes, hein, je dois le dire. Merci. Vous êtes venu beaucoup au débat sur la question de l'Europe, et à chaque fois, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on vous a invité ce soir, c'est que vous y allez, quoi. Vous y allez assez fort dans vos convictions. Est-ce que vous partagez ce qu'ont dit Gérald Bronner et Raphaël Liogier sur les conditions dans lesquelles vous acceptez de venir, et ce qui fait peut-être que parfois vous avez envie de vous échapper avant la fin?
Ah non, ça, je viens de voir cette carte jouer avec Maestria et je me dis que c'est une carte à réserver pour les grandes occasions, donc ça s'échapper. Donc non, mais c'est vrai que je n'accepte pas toutes les invitations qui me sont faites, peut-être parce que je suis un des rares spécimens de la presse portugaise ici, donc pour faire entendre une certaine voix du sud de l'Europe, alors on fait peut-être un peu plus souvent appel à moi, mais pas pour des débats qui sont déjà préformatés, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je n'ai pas le temps non plus à y consacrer, mais je voulais juste dire que cette émission-ci, que France Culture et que la France en général, un pays où je suis venue travailler, on m'a envoyée ici, eh bien, c'est un pays, une société de consommation, certes, mais c'est une des dernières où encore les gens cherchent dans leur temps de loisir à plutôt qu'à se divertir ou à consommer, ils cherchent à se cultiver, ils cherchent à se perfectionner. Et ça, pour moi, c'est un oxygène fulcral pour l'existence.
Julie Carini.
Oui, moi, à propos de la question de la difficulté ou pas à monter des plateaux, je me souviens que l'équipe qui travaillait pour nous, et ce sera l'occasion de dire un petit mot, de Mathieu Sarda, Francesca Isidori, Aurélie Marseille qui avait commencé, Nathalie Lempereur, Avril Ventura, etc. Parce que c'est aussi ça, la radio, c'est du collectif, et c'est aussi la raison pour laquelle on la regrette. Elle nous disait souvent, c'est très étonnant, les débats qui se montent et ceux qui ne se montent pas. Parfois, on arrive à monter l'antisionisme, est-il un antisémitisme, qui est quand même un sujet extrêmement chaud. Ah ouais. Et parfois, la question de savoir s'il faut mettre les livres au pilon 3 mois plus tard, est-ce que ça va vraiment menacer l'économie du livre? Et ben, ça, c'est absolument impossible à faire. Parfois, on s'amusait de débats qui pour nous étaient le débat facile de la semaine, sur lequel on planchait des heures parce que personne ne voulait venir. Donc, en fait, on se fait aussi des fausses idées parfois de ce qui est difficile ou pas difficile dans le débat.
Et puis, des fois, on a des surprises. On imagine qu'il y a des invités qu'on sollicite et qui vont accepter avec plaisir de venir débattre ensemble. Et où, là non plus, hein, je ne vais pas citer de nom, mais on nous dit attention, non, moi j'accepte de venir, mais alors pas s'il y a un tel. Ça vous est arrivé souvent, ça, Brice Couturier?
On avait comme principe avec Julie, on avait posé quelques principes de base pour des procédures entre nous pour qu'il n'y ait pas de désaccord jamais.
Donc
on
beaucoup avait posé... de réflexions sur le générique, principe de base, c'était très réfléchi quand même.
Il y avait plusieurs. Oh oui, il y a d'abord sur l'ouverture du spectre idéologique déjà, hein, parce que c'est pas toujours évident dans nos radios qu'on entende tous les points de vue, et nous on a fait entendre vraiment tous les points de vue. Sans exclusive. D'une part, on avait ça. Deuxième principe, on avait de faire parler plutôt les experts que les acteurs de la société civile. Parce que les acteurs de la société civile sont souvent des responsables qui ont des discours préformatés. Les intellectuels, les experts ont des discours plus intéressants à notre égard.
Et d'autre part, ailleurs. C'est ce qui distingue d'ailleurs la formule du grain actuelle. Parce que nous, on fait entrer les acteurs de la société civile.
Oui. Et troisième chose, c'est qu'évidemment, on voulait des points de vue contradictoires parce qu'on avait comme idée que pour éclairer une statue, il faut qu'elle soit éclairée de tous les côtés à la fois pour qu'on en voit toutes les beautés à la fois de droite, de gauche et puis parfois aussi de comme Marlène Dietrich dans les films de Sternberg, d'en dessous, en contre-plongée. Donc, si on voulait voir toutes les beautés, tous les aspects en tous les cas d'une question, il faut essayer de multiplier les points de vue. Et on avait fixé ces règles dès le départ et je crois qu'on les a respectées assez scrupuleusement.
Alors je disais, il y a des fois des invités qui préfèrent ne pas venir s'ils sont face à tel interlocuteur. Il y en a aussi sans doute, faut pas non plus penser que l'émission attire tous les invités au potentiel qui ne viennent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de participer à du grain à moudre. Bon, j'imagine que ça n'est pas votre cas à tous les trois, Gérald Bronner, Anna Navarro-Pedro et Raphaël Liogier. Sinon, vous ne seriez pas là ce soir, mais on s'est dit qu'il y avait peut-être des personnes qui se disaient, non, moi j'ai pas envie de venir, j'ai peut-être même pas envie d'écouter. Et Cyril Baer, bonsoir.
Bonsoir.
Cyril Baer qui fait partie de l'équipe. Nous aussi, on va citer les membres de l'équipe, Julie Carini, Cyril Baer, qui travaille avec nous depuis cette saison. Vous êtes dit, vous avez eu une drôle d'idée. Je vais aller demander aux gens de France Culture, quelle question?
Donnez-moi une bonne raison de ne pas écouter du grain à moudre.
Et alors, ce qui est extrêmement décevant, c'est que les gens vous ont répondu, et assez facilement apparemment.
Assez facilement, pas tant que ça. Il aura fallu un peu réfléchir, mais ils ont réussi à trouver de manière plus ou moins fantasque et plus ou moins sérieuse une bonne raison de ne pas écouter du grain à moudre.
Je n'écoute pas le grain à moudre parce que je me dis que c'est plus possible de commencer toutes ces questions par « peut-on encore ?».
C'est très vivant, il y a beaucoup d'idées, mais vraiment c'est sur la forme que je n'y arrive pas. Il faudrait qu'il soit un peu plus sexy.
Parce que on en a marre, c'est toujours le même homme qui présente. le débat et qu'on aimerait bien qu'il y ait une femme de temps en temps qui soit au micro pour parler de ces questions sérieuses.
Voilà, exactement. Il y a eu un moment où de la discussion naissaient les idées. Aujourd'hui, les idées sont sur la place publique. Il n'y a plus qu'à s'en saisir.
Alors, le grain à moudre, ils sont très très forts pour trouver de nouvelles questions, pour rendre le monde encore plus complexe. En revanche, ils sont pas très très bons pour nous fournir des réponses.
Le jour où le titre sera une affirmation, ce jour-là, j'écouterai avec plaisir Hervé Gardette et Mélanie Chalandon.
18h20, c'est l'heure à laquelle on donne le bain des bébés, donc on peut pas écouter le grain à moudre. Parce que les bébés, ça leur fait pas du bien en fait aux oreilles. Ouais, c'est trop agressif pour les enfants. Ouais, c'est une émission décidément trop agressive.
Parce que c'est l'heure de C'est dans l'air, donc impossible d'écouter le grain à moudre.
Pourquoi ne pas écouter du grain à moudre? Parce que Hervé Gardette n'est jamais d'accord avec lui-même. Donc il passe son temps à se contredire et il essaie d'inviter des invités qui sont tous d'accord ensemble pour savoir ce qu'ils pensent, en fait. Donc c'est une émission navrante.
Parce que c'est le seul endroit sur France Culture où on peut entendre des gens de droite.
Les invités connaissent trop bien leur sujet, je préfère les gens qui parlent de tout sans rien comprendre.
Parce que personne ne se souvient d'André Bergeron, celui qui a inventé la formule « il faut qu'il y ait du grain à moudre ».
Le grain à moudre, je ne connais pas, je n'ai pas la télé.
Attends, l'émission Le Grain à Moudre, c'est l'émission qui fait genre tin 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 na 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 tin tin na na na.
Voilà, micro trottoir entièrement réalisé dans les couloirs de France Culture. J'ai un certain nombre de noms. Raphaël Liogier, vous me disiez pendant ce micro trottoir, il y a la culture, c'est dans l'air, il y a la culture du grain à moudre. Et moi, j'ai fait mon choix.
Ah ben, j'ai choisi la culture du grain à moudre, oui, parce que vous parliez d'experts, mais je crois justement qu'une des caractéristiques du grain à moudre, c'est justement de ne pas inviter des experts, mais des universitaires et des intellectuels. Et pas les experts au sens des individus reconnus comme experts, sans qu'on connaisse très bien l'objet de leur expertise. Et je pense que d'ailleurs, depuis l'année dernière, avec les événements tragiques qu'on connaît, on a vu défiler un peu partout des experts, mais on savait pas très bien d'où ils venaient. Voilà. Et au grain à moudre, on sait d'où ils viennent.
Pourquoi des experts? Parce que les experts permettent le déminage idéologique. Et pour moi, ça m'a toujours paru une chose essentielle pour essayer de comprendre l'époque. Nous sommes absolument cernés par les idéologues de tous côtés. Et les idéologues ont tendance à ramener les problèmes à ce qu'ils connaissent déjà, dans les ornières qu'ils ont déjà creusées. Alors que les experts, précisément, sont capables de sortir de ces ornières. C'est mon point de vue.
Juste une petite chose. C'est parce que c'était sur la définition d'expert. C'est-à-dire que justement, au grain à moudre, pour moi, on invite autre chose que des experts parce que ce sont des universitaires, des chercheurs, etc.
Gérard Brunner, vous vous considérez comme un expert? Vous rentrez dans cette catégorie-là?
Je me considère comme un homme de science. Après, ça peut être un synonyme d'expert, en effet. J'ai aucun problème avec ce terme. Ce que je voulais dire, c'est que, pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, Hervé Gardette, c'est qu'il y a des invités qui ne veulent pas être invités avec d'autres. Et ça, c'est très intéressant. C'est une des raisons, à mon avis, pour laquelle il faut accepter de venir dans des émissions de débat de qualité comme la vôtre, parce que nous connaissons bien, nous, le monde institutionnel et universitaire, et nous avons des stratégies d'évitement, les uns par rapport aux autres. Hein. Nous avons des colloques et nous nous évitons les uns les autres. Alors,
il y a aussi des susceptibilités, c'est-à-dire je suis justement le spécialiste de ce domaine et je ne tiens pas totalement à partager ma spécialité.
Tout à fait. On a mille raisons, disons, de ne pas ouvrir le débat, même si parfois il y a des débats. Hein. Mais je sais qu'à la Sorbonne, à l'époque, j'avais fait se rencontrer Raymond Boudon, qui était un très grand sociologue, Jean-Pierre Changeux, un grand spécialiste du cerveau, comme vous savez, et Vincent Descombes, qui est un grand philosophe. Et on les avait fait parler pendant 3 heures, mais il m'avait fallu 1 an et demi pour arriver à ça. C'est vous dire l'admiration que j'ai pour vous qui le faites quotidiennement.
Ouais. On n'y arrive pas toujours. Hein. Anna Navarro-Pedro, est-ce qu'il y a des invités avec lesquels vous refuseriez absolument de vous confronter?
Je n'en vois pas pour l'instant. Peut-être qu'il y en a, mais je pense que dans notre profession, chez journalistes comme vous, la curiosité prime sur tout. Et je pense qu'on peut et on doit pouvoir parler de tout s'il y a échange d'idées. Mais je voulais juste ajouter une petite chose sur ce micro-couloir dans France Culture. La mauvaise foi, cette petite mauvaise foi qui est un régal dans le débat à la française.
Bon, on l'a fait exprès, hein, mais c'était plutôt
on
justement...
On a bien compris.
On voulait pas tomber dans l'autocélébration, ça n'aurait pas grand intérêt pour les gens qui nous écoutent. Julie Clarini, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps, alors je vais pas vous demander si vous écoutez du grain à moudre actuellement, mais est-ce qu'il vous arrive d'écouter d'anciennes émissions que vous avez produites avec Brice Couturier?
Non, Non, je suis pas du genre à me noyer dans la nostalgie, mais non, je le fais pas. En revanche, je sais que ça m'a appris beaucoup et que ça reste très structurant pour nous. Il y a notamment une chose qui était très intéressante par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Brice. Vous disiez, on essaye d'avoir plein de points de vue à chaque fois différents sur la statue, sur l'objet du soir. Je me souviens très bien d'une réflexion qu'on entendait tout le temps dans le bureau, qui était, on va encore faire débattre la gauche avec la gauche. Et alors, Brice, ça m'était en fureur. Et en même temps, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'évolution du débat intellectuel, c'est qu'effectivement, le grand clivage aujourd'hui, il est entre ceux qui se disent de gauche et que certains appellent les néo-réactionnaires, et ceux qui restent, disons, les héritiers de 68, enfin, je vais très très vite, mais la gauche bobo et les néo-réacs. Et en fait, c'est là que ça se passait, et donc ça se passait déjà il y a 10 ans, et on l'a senti dans nos débats.
Et on aura l'occasion d'évoquer justement cette question d'ici quelques minutes, mais alors, puisqu'on parle aussi un petit peu de vos souvenirs à tous les deux, Brice Couturier et Julie Clarini, vous savez, la mémoire, forcément, ça trahit toujours. Alors, on a demandé à Mélanie Chalandon. Bonsoir, Mélanie.
Bonsoir.
Mélanie, voilà, qui est la productrice adjointe de l'émission. Non pas de réécouter les quelques 2000 émissions, c'est une estimation, hein, c'est à la louche, avec environ 6000 invités, les 2000 émissions de ces 10 dernières années, mais de jeter quand même un petit regard sur les sujets qui revenaient sur ces 10 ans. D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux en regardant toutes ces saisons passées, Mélanie?
Il y a même plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux, Hervé. Et la première, c'est que je ne sais pas si Le Grain, dans ses premières saisons, était particulièrement visionnaire ou si le débat n'a pas tellement changé depuis 10 ans. C'est peut-être plutôt ça. Mais a priori, des thématiques plutôt actuelles. Par exemple, en 2006, vous demandiez pourquoi pas des primaires à droite. Vous aviez 10 ans d'avance. La famille a-t-elle de l'avenir? La question était posée en 2008, bien avant le débat sur le mariage pour tous, par exemple. On débattait aussi sur des questions. Les salafistes sont-ils influents en France en 2007? Quelques années plus tard, peut-on guérir du fanatisme? C'était en 2011 et c'était déjà avec vous, Gérald de Bronner. Parti, 3 petits points, socialiste, point d'interrogation. C'était en 2009, ça n'a pas changé. Les jeunes sont-ils les sacrifiés du modèle français, 2008? On pourrait peut-être la rediffuser demain. Voilà, donc visionnaire, mais...
Oui, parce que ne faites pas trop plaisir, notamment à Brice Couturier, qui est persuadé d'avoir tout inventé.
Donc, quelques exceptions près. Effectivement, on ne se demande plus aujourd'hui s'il faut casser les prix pour sauver le CD. On ne se demande plus non plus si l'Internet sans fil est nuisible à la santé. Des débats sur les conséquences du prix du baril du pétrole à $100, par exemple. D'autres sur quand l'Iran aura la bombe. Dernière question qui pourrait se poser encore aujourd'hui, mais peut-être pas de la même manière. Le PS peut-il redevenir un laboratoire d'idées? Vous en débattu notamment avec Manuel Valls. Et puis Le Grain, c'était avant tout une ligne éditoriale.
Cette émission n'aime ni les clichés journalistiques ni le manichéisme, et c'est bien pourquoi nous entendons continuer à donner la parole à tous ceux qui ont quelque chose d'éclairant à dire sur la réalité qui nous environne.
Alors, donner la parole à tout le monde, certes, à condition qu'ils puissent répondre aux questions posées, et ça, c'était peut-être pas donné à tout le monde. Un exemple:
pourquoi le marxisme-léninisme a-t-il pu devenir le laboratoire de ce qui ressemble bien à un néoconservatisme français quand le marxisme révolutionnaire, le trotskisme, a semblé préserver ses partisans de tels retournements?
Répondez à votre question, Julie Clarini.
Ah, c'est ça l'idée. Ça, c'est vache. Mais j'ai quelques lumières sur la question. Si vous voulez maintenant.
Non, cela dit, c'est vrai que, enfin, voilà, ça fait partie aussi des fois des questions
qui
sont un petit peu longues, voilà, et qu'on a du mal à peut-être terminer. Alors, 2006-2016, il s'est passé énormément de choses, évidemment, en France et dans le monde. Est-ce que ça correspondait à ce qui était traité et ce qui a été traité sur 10 ans dans Du Grain à Moudre? Déjà, peut-être, on peut qualifier d'un mot pour vous, ce qu'a été cette décennie d'actualité, Mélanie Chalandon?
C'est assez simple, la crise.
Et la crise, on l'entend.
La crise des subprimes aura été fatale pour Lehman Brothers. Cette faillite pourrait surtout en entraîner d'autres.
And make Barack Obama, in our view, president-elect of the United States of America.
Une foule de 5000 personnes pour accompagner Mohamed Bouazizi dans sa dernière demeure. Le vendeur ambulant s'est immolé par le feu devant les bureaux du gouverneur de Sidi.
Il était 16h aujourd'hui au Japon, 8h en France, quand soudain, une explosion dans le premier des bâtiments réacteurs de la centrale nucléaire numéro 1 de Fukushima.
Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République.
Abina an alay.
Voici le visage du nouveau calife Abu Bakr al-Baghdadi et l'enregistrement qui annonce sa désignation comme chef des musulmans partout dans le monde.
Euclide Sakalotos est le premier à sortir. Il esquisse finalement un sourire. Le ministre grec des Finances a négocié 6 heures durant. Les détails techniques du plan d'aide à la Grèce sont validés par l'Europe. une aide de 86 milliards d'euros. Athènes échappe ainsi à la faillite.
Une marée humaine, place de la République à Paris et plus de 3,5 millions de personnes au total qui ont marché en France pour la tolérance, contre le terrorisme, en hommage aux victimes de ces derniers jours, pour dire « nous n'avons pas peur », pour défendre les libertés d'opinion et d'expression.
Voilà, 10 années d'actualité remixées par notre réalisateur Jean-Christophe Francis. Alors, est-ce que ces sujets présents dans l'actualité pendant 10 ans, on les retrouve régulièrement dans Du Grain à Moudre?
Alors, on les retrouve, mais avec des sujets qui sont quand même un peu plus traités que d'autres. Peut-être que les crises provoquent des obsessions. J'en ai relevé 3. Obsession pour le libéralisme. Survivra-t-il à la crise? La question semble particulièrement vous préoccuper. 5 émissions sur la seule saison 2009-2010. Par exemple, faut-il pendre
cinq
les...
5 émissions sur une seule saison? Ah, il fait beaucoup.
Faut-il pendre les libéraux? Quelle alternative philosophique au libéralisme? Proudhon libéral ou socialiste? Le néolibéralisme fait-il son lit? Des catastrophes? Je vous les fais pas toutes. Deuxième obsession, la nation. Une bonne dizaine d'émissions, surtout sur la première saison. Multiculturalisme, communautarisme, flux migratoire, identité nationale, études postcoloniales et modèles d'intégration. Et puis troisième obsession, la culture. De loin, l'une des thématiques les plus traitées de vos 5 saisons. Faut-il supprimer le ministère de la Culture? Vous posez la question 2 fois d'une année sur l'autre, et j'ai vérifié, c'était pas une rediffusion. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas particulièrement optimiste ni bienveillant à l'égard des pouvoirs publics. Les musées sont-ils à vendre? Le Quai Branly est-il un nouveau Luna Park? Politique culturelle oubliée, les années langues, voilà, théâtre, cinéma, musée, télé, mais pas d'émission sur France Culture elle-même.
Brice Couturier, vous vous souveniez de toutes ces questions, de toutes ces émissions?
Mais qu'il y ait eu beaucoup d'émissions sur le libéralisme ne me dérange pas trop, puisque je suis précisément un libéral, donc j'ai dû probablement... Mais oui, c'est pas un coming out, je pense.
Oui, non, ce qui était intéressant, c'est que c'était pas uniquement pour défendre une position qui était celle du néo, de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. On a aussi bien discuté de savoir de quelle était la tradition libérale à l'intérieur de la gauche. Enfin, c'est libéralisme au sens philosophique du terme politique.
Bon, je vous rassure, on verra dans un instant qu'il y a aussi des obsessions depuis 5 ans. Évidemment, vous n'êtes pas les seuls à répéter des sujets.
On va faire la même chose sur vous.
Mais je sais, vous ferez ça pour les 15 ans, par exemple, ou pour les 20 ans. Je voudrais qu'on accueille un nouvel invité, c'est Benjamin Berru. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue chargé de cours en communication et on vous a invité. Vous êtes déjà venu chez nous 2 fois. Une première émission, c'était pour parler de la mise en scène de la bataille de Kobané en Syrie, la mise en scène médiatique. Et puis vous étiez revenu quelques semaines plus tard. C'était une semaine, si je me souviens bien, après les attentats de janvier 2015, où on se demandait si finalement les manifestations qui avaient suivi étaient de l'ordre du fantasme d'une France unie. Donc voilà, vous voyez, Brice Couturier, nous aussi, on n'était pas trop en retard, en tout cas, sur cette question-là. Et on vous a fait venir parce que vous observez aussi ce qu'est le débat médiatique. On parlait de certaines obsessions. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a une forme d'obsession du débat qui existe dans les médias? C'est-à-dire qu'il faut à tout prix avoir des avis contradictoires et que ça frite un peu, quoi.
Il y a une forme d'obsession du débat d'une manière générale, et surtout, j'arrive un peu avec mon côté un peu numérique, en étant avec à ma gauche Gérald Bronner. C'est le numérique maintenant, le débat, il y a une obsession de vouloir débattre partout. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la question de est-ce qu'il y a une obsession du débat, c'est quels sont les cadres possibles du débat. C'est-à-dire que là, on est actuellement dans un cadre assez sécurisé, assez sympathique, assez agréable. On a parlé du premier générique qui était absolument extraordinaire, et notamment parce qu'il rappelait le salon du 18e, c'est parce qu'il y a une certaine sécurité, une certaine légèreté. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, quand on dit en fait qu'il y a une obsession du débat, c'est où est-ce qu'on va débattre? Et quand vous demandiez aussi avec qui vous seriez prêt à débattre, c'est avec qui vous seriez prêt à débattre et où. Donc, il y a une obsession du débat, il y a énormément de débats, enfin, comme on dit, il y a énormément d'émissions autour de ça. L'ouverture du web a permis à tout le monde de donner son avis. Mais la question, c'est dans quel cadre et avec qui?
Raphaël Liogier.
Moi, je crois aussi qu'il y a une. Il me semble, de plus en plus de querelles de mots, MOTS. Et que derrière ces querelles de mots, il y a un certain nombre de, comment dire, une difficulté à mettre du fond. Je prends un exemple, puisqu'on a parlé de libéralisme. Moi aussi, je me considère comme étant libéral. Parce que le libéralisme, c'est quoi? Le libéralisme, c'est un projet qui nous vient aussi du 18e siècle, qui est de libérer, d'être libre, de libérer l'homme, libérer la subjectivité. Marx lui-même se disait libéral dans ce sens-là. Ben, aujourd'hui, il y a un discrédit sur le mot lui-même. C'est-à-dire que dès qu'on prononce le mot libéralisme, on a une image. C'est l'image d'entreprises multinationales complètement dérégulées qui sont là pour vous aliéner et qui sont en fait pas du tout libérales dans ce sens-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mots, libéralisme. Il va y avoir un autre mot qui est aujourd'hui encore plus à cause des événements récents, islamisme. Et même aujourd'hui le mot djihadisme. Et on va finir par se battre sur des mots et construire, moi, ce que j'appelle des non pas le fait de débattre, mais de s'ébattre dans un climat d'opiniologie et plus dans un climat d'idéologie. C'est-à-dire qu'on va, voilà, ça va être, c'est ça que je veux dire.
Est-ce que vous partagez ce point de vue, Anna Navarro-Pedro et Gérald Brunner?
Sans enfoncer des portes ouvertes, mais cette obsession du débat un peu partout, et surtout dans les médias, mais pas que, mais dans les médias, est-ce que c'est vraiment une obsession du débat avec une confrontation de points de vue et probablement un enrichissement pour tous, ou est-ce que c'est l'obsession d'avoir la petite phrase qui va faire le buzz et qui permettre de faire de la publicité au programme même ou aux médias même? Je n'en suis pas très sûre si on cherche vraiment un débat en profondeur comme dans le grain à moudre.
Gérald Brunner, merci, c'est bien à chaque fois de reciter l'émission pour dire qu'elle est exemplaire. Gérald Brunner.
Moi, je pense qu'il y a d'abord un caractère métastatique dans le débat public, et puis une hystérisation aussi du débat, et que Internet a permis de fluidifier, par exemple, des paroles qui ne se rencontraient pas forcément et qui ont tendance à aller vers de la polarisation et de l'hystérisation. Par exemple, j'ai simplement regardé, vous savez, sur Google Tendance, c'est un moteur de recherche qui vous permet de voir le type de mots qui sont recherchés sur Google. Et si vous regardez le mot clash en France, clash qui désigne précisément l'affrontement violent qui peut être verbal la plupart du temps, vous voyez une augmentation tout à fait vertigineuse de ce terme. J'ai l'impression qu'on est là en pleine lutte des clashs, c'est-à-dire dans cette
cacophonie. Ça aurait pu faire un bon titre.
Dans cette cacophonie intellectuelle, beaucoup cherchent à se distinguer par l'outrance. Donc voilà, cette concurrence-là effrénée entre tous ceux qui parlent, ça crée de l'hystérisation.
Gilles Clarigny.
Moi, c'est plutôt une question que j'aurais, mais je pense pas qu'on ait le temps d'y répondre. Est-ce que finalement ce désir, cet appétit de débat n'est pas lié aussi au déclin du sentiment d'appartenance, du sentiment d'appartenance à des classes sociales, à l'affaiblissement des partis, par exemple, ce qui fait qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on pense et que peut-être, du coup, on aspire aussi à entendre plein de ce que vous appelez d'opinions.
Raphaël Yogier m'a dit juste une petite chose, et Benjamin Berru.
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement ce rapport au clash qui est lié aussi à la petite phrase et au débat des mots. Et deux, il y a ce qui a été dit, c'est une forme de liquidité. C'est ça que j'appelle l'opiniologie. Parce que l'idéologie, ça suppose une stabilité qu'on n'arrive plus à avoir aujourd'hui, une structure, quoi, des idées.
Le vrai débat, je pense, c'est comme vous disiez, la question de la définition de ce dont on parle, du mot. C'est vraiment ça, le fond du débat. Après, ce qui est arrivé, en fait, et là, je suis assez d'accord qu'il y a une question d'opinionologie, enfin, de juste donner son avis, c'est aussi que maintenant, n'importe qui peut se sentir reconnu dans le fait de participer à un débat ou qu'il se fasse sur un blog ou juste en participant sur Twitter. Et c'est là qu'on a souvent un débat où c'est une volonté de reconnaissance et justement une recherche d'identité, de « je participe et je m'inscris dans une certaine identité ».
Roulement de tambour pour faire une petite pause, si vous le voulez bien, dans ce débat sur le débat, pour accueillir deux invités supplémentaires. Fabienne Brugère, bonsoir.
Bonsoir.
Fabienne Brugère qui est philosophe, et Nadia Maizy qui est mathématicienne. Bonsoir Nadia Maizy.
Bonsoir.
Et Julien Damon qui nous rejoindra dans quelques instants, qui est sociologue. Je vous ai fait venir, alors non pas pour discuter, mais parce qu'on vous a proposé de vous soumettre à une idée un petit peu farfelue. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission, donc à partir de 18h20, on s'est dit, il faut pas seulement qu'on parle de l'émission, parce que ça va lasser, il faut pas seulement qu'on parle du débat, parce que ça sera un petit peu long, il faudrait aussi qu'on réfléchisse à d'autres formes de débat, et pourquoi pas proposer à des invités de venir sans savoir de quoi ils et elles vont débattre et de tirer au sort un sujet. Fanny Richer, bonsoir.
Bonsoir.
Fanny Richer, voilà, autre membre de l'émission, autre membre de l'équipe du Grain à Moudre. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous nous avez préparé dans votre joli panier en osier. Il y a différents sujets.
Alors avec mes petits camarades, on a sélectionné quatre sujets, donc en essayant de choisir des sujets qui pouvaient parler à tout le monde.
Alors, donc, qui pouvaient parler à une mathématicienne, voilà, à une philosophe et à un sociologue.
Voilà, alors j'espère qu'on a réussi. Donc, le tirage au sort va s'effectuer.
Et ensuite, je précise que je ne suis pas au courant des sujets. Hein.
Voilà. Attention. Et ensuite, on a préparé des documentations donc sur chaque sujet qui seront remis aux invités, qui auront le temps après de préparer un petit peu, enfin voilà, pour qu'il y ait quand même un petit peu de fond dans tout ça.
Voilà, et vous aurez une vingtaine de minutes à partir de 18h20 pour en discuter, puisque dans la toute dernière partie du Grain à Moudre, et bien on vous le dit pas tout de suite, c'est une petite surprise. Alors je sais pas qui de Fabienne Brugère ou de Nadia Maizy veut tirer au sort le sujet. Attention, c'est une lourde responsabilité. Allez, Fabienne Brugère. Alors, attention, voilà, là on n'a pas encore le tambour, mais on pourrait presque... Allez, ouvrez, puis dites-nous de quoi...
Voilà.
Alors,
à quoi vous allez être soumise ?
Le numérique fait-il de nous une civilisation supérieure ?
Le numérique fait-il de nous une civilisation supérieure ? Alors, je précise que ce sont des thèmes que nous avons déjà abordés dans du grain à moudre, mais comme en général, je me souviens pas de l'émission que j'ai faite la veille. Voilà, je suis à peu près à égalité avec vous. Bon, vous avez compris que Benjamin Berru se préoccupe et s'occupe des questions du numérique, donc peut-être qu'il pourra vous donner un petit coup de pouce. Vous êtes d'accord avec le sujet, Nadia Maizy, ça vous convient ?
On n'a pas le choix, je crois.
Bah, vous pourriez tirer un deuxième sujet, mais bon.
Si le sujet vous convenait pas, vous pouviez retirer.
Ça vous va. Bon, bah, allez, au travail. Alors, on va vous donner la doc. Et puis, on se retrouve à 18h20. Ça vous est déjà arrivé, Ana Navarro Pedro, d'arriver dans une émission sans savoir de quoi vous alliez parler ?
Ah non, ça, je pourrais pas le faire. Non, je pense qu'il y a quand même un travail de préparation qui me semble nécessaire en tant que journaliste avant. Oui, je peux, au cours d'une conversation normale entre amis, pouvoir exprimer mon opinion sur tout et n'importe quoi, mais pas dans un espace comme celui-ci, c'est hors de question. Mais je voulais juste revenir sur la question des choix, des débats en France, ouais, là, qui ont été soulevés tout à l'heure, parce que en tant qu'étrangère ici, il y a quelque chose qui me frappe profondément, c'est le fait que des débats récurrents dans la société française, débats qui sont là depuis 10 ans, comme le débat sur les 35 heures, ou plus récemment le débat sur le mariage pour tous, ou très récemment maintenant le débat en cours sur l'ubérisation de l'économie, sont des débats qui, s'ils prennent beaucoup, s'il y a une soif de ces débats dans la population, peut-être c'est parce que ce sont des débats qui ont à voir avec des choix de société et que les Français les ressentent plus que d'autres peuples, d'autres nations le sentent plus que d'autres, et que ils ont un trait à ces choix de société et aller au chemin que le pays va prendre.
À vous entendre, Ana Navarro Pedro, on a l'impression que c'est une spécificité française, le débat, mais quand on vous a proposé de venir pour cette émission un petit peu particulière, vous nous avez raconté que votre grand-père était polémiste.
Oui, il a été polémiste, mais c'était au 19e siècle au Portugal. Donc, en France, il y avait un petit peu le même esprit. Il était politicien et avocat et journaliste et diplomate, ce que les hommes étaient à l'époque, enfin, Troisième République pour la France. Vous avez connu ça ici aussi. Oui, c'était un très grand polémiste au Portugal.
Je reviens à ma question précédente, puisque je rappelle cet exercice auquel on soumet trois de nos autres invités de tirer un sujet de débat au sort. Gérald Brunner, vous venir dans une émission et où vous découvrez le sujet au moment d'arriver, ou alors où le sujet a évolué, où finalement vous vous dites que non, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on vous avait dit, ça vous est déjà arrivé ? Non, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, pour tout vous dire, avec des invités qui viennent et qui disent « Alors, c'est quoi déjà le sujet ce soir ?»
Non, ça ne m'est pas arrivé, ça ne risque pas de m'arriver, parce que précisément le principe pour moi qui consiste à accepter de faire une émission, c'est parce que j'espère, ça c'est un peu immodeste, d'apporter une plus-value. Donc si je ne connais pas le sujet, je ne vais pas pour parler, j'y vais pour éventuellement apporter un petit morceau d'expertise, sinon je ne vois pas l'intérêt.
Raphaël Liogier ?
Alors disons que moi ça ne m'est jamais arrivé d'accepter une émission sans connaître, en croire au moins connaître le sujet, mais par contre ça m'est arrivé d'oublier entre-temps... Lorsque l'invitation, c'est sur 15 jours, quel est exactement le sujet ? Mais tout en étant rassurant, en me disant si je l'ai accepté, c'est que j'imaginais que j'étais compétent.
Benjamin Berru, ça peut-être que ça peut se voir aussi des fois dans certains débats, donc certains invités sont plus ou moins bien préparés, disons.
Oui, et puis certains qui sont, comme on disait, un peu experts de tout et n'importe quoi et qui viennent sur un sujet donné pour donner leur avis. Ça se sent en effet sur certains débats. Et là encore, ça dépend de tout, de la préparation de l'émission, du cadre et de l'habitude. Et de la relation et de la posture, j'irais, que l'émission propose à ses auditeurs ou à ses téléspectateurs.
Alors, il y avait sur le site d'Arrêt sur Image, je ne sais plus si c'était avant-hier, ou enfin, en tout cas, ou en tout début de semaine, un édito, l'édito quotidien de Daniel Schneiderman, qui racontait ceci. Il raconte qu'il a été invité dans une émission du service public. Bon, il ne dit pas laquelle, donc je ne sais pas de laquelle il s'agit. Une émission diffusée sur une chaîne publique qui l'invite à un débat sur le thème « Peut-on encore débattre aujourd'hui en France ?» Alors, ça, c'est... Je pense un des thèmes les plus communs aujourd'hui dans les émissions de débat. Et il écrit ceci, étrange invitation à supposer qu'après débat, l'on réponde par la négative. Nous aurons fait la preuve de l'inverse, puisque nous aurons prouvé qu'on peut encore débattre du fait qu'on ne peut plus débattre. Est-ce que finalement, aujourd'hui, une des tendances du débat d'idées, c'est pas de faire du méta-débat, Benjamin Berru ?
Ce qu'on est en train de faire.
Ouais, c'est ça, ce qu'on est en train de faire. Et le plaisir de discuter, je pense, fondamentalement, c'est-à-dire que c'est aussi trouver des sujets pour une émission quotidienne ou autre, c'est le plaisir de discuter, de donner son avis.
Raphaël Gueugé.
En même temps, c'est assez banal ce genre de choses, parce que même, par exemple, dans les milieux scientifiques, on débat sur ce qui est scientifique. Dans les milieux, on débat sur la méthodologie. Ben, moi, je pense à. Mais c'est vrai que quand on en reste là, ça finit par être comme une mauvaise thèse. Qui, à force de débattre de méthodologie, pendant les deux tiers de l'espace dévolu à la thèse, n'a plus le temps d'évoquer dans les 10 dernières pages des résultats.
Presque Couturier.
Ouais, moi je suis très gêné par ce type de débat. Pourquoi ? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que progressivement on remplace le débat d'idées par l'affrontement des égos. Et c'est de plus en plus le cas des émissions de débat. Je parle pas de la vôtre, mais je parle de ce qu'on voit surtout à la télévision. Or moi, j'ai toujours eu l'idée que le débat devait aboutir à découvrir des vérités. On n'est pas là simplement pour échanger des idées comme dans un salon. On est là pour faire émerger des vérités, pour faire comprendre les enjeux véritables qui sont cachés souvent derrière les affrontements. C'est ça qui est intéressant dans une émission de débat, c'est de faire ressortir ce que les gens ne voient pas et ce que les experts peuvent nous apporter. C'est pour ça que je préfère les experts aux intellectuels. Les intellectuels sont dans l'affirmation de leur ego. Et vous savez très bien que pour la plupart d'entre eux, on sait d'avance ce qu'ils vont dire sur chacun des sujets sur lesquels on les interroge. Quel intérêt, à part effectivement l'image à la télévision de quelqu'un qui se déploie.
C'est à ça que ça sert le débat, faire émerger la vérité ou des vérités, en tout cas Gérald Brunner.
Oui, à condition de ne pas admettre par principe que la vérité est toujours une voie intermédiaire entre les deux personnes qui parlent. Quelquefois, il y en a un qui a raison contre l'autre, ou ça peut arriver. Donc il faut effectivement partir dans ce genre de débat en prenant le risque de découvrir éventuellement la vérité, sachant qu'elle peut nous offenser.
En prenant le risque aussi de se laisser convaincre par un interlocuteur qui, a priori, n'a pas le même avec le vôtre, Anna Navarro-Pedro.
C'est merveilleux de pouvoir changer.
Ça vous est déjà arrivé?
Ça, c'est changer, de me faire changer de position. Oui,
est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Oui, bien sûr.
Et
c'est merveilleux de me faire évoluer sur plusieurs points de vue, en économie notamment, qui est mon domaine de spécialisation.
Par exemple, on a réussi à vous convaincre que tous les programmes d'austérité qui avaient été mis en place au Portugal étaient des bons programmes?
Non, on n'en va pas jusque-là. Et d'ailleurs, je suis parfaitement capable de vous faire les deux points de vue. Non, mais sur certains points concernant notamment les besoins de certaines des petites et moyennes entreprises en France, par exemple, auquel je croyais qu'il était... Enfin bon, bref, on ne va pas entrer dans le détail, mais oui. Mais je crois que le débat éclairant a fort à faire, parce qu'entre le combat des égos, entre le buzz et l'utilisation publicitaire, et entre sa dérive vers la communication politique ou d'autres, le pauvre débat doit se débattre.
Julie Clarini.
Oui, je pourrais prendre un exemple. Je ne sais pas si c'était la vérité qu'on avait atteint, mais ça m'avait semblé une émission très intéressante. On s'était beaucoup amusé à la préparer. Ça s'appelait Draguer, est-ce travailler? Et c'était à propos de l'île de la tentation. Vous savez, les gens qui allaient jouer dans cette émission de télé-réalité, ou jouer ou pas jouer, ou vivre dans cette émission de télé-réalité, demandaient à être payés. Et on avait fait une émission avec Maître Jérémy Assous et Jean d'Hermesson. Et je me souviens que on était parti presque dans une forme de hauteur philosophique, parce que tout d'un coup, définir le travail, c'était devenu quelque chose d'extrêmement compliqué. Et il y avait là des arguments qui s'échangeaient. Et je me souviens de cette émission pour laquelle on avait vraiment ri avec toute l'équipe dans le bureau en se disant « on va bien se marrer ce soir ». Et avait été en fait une émission passionnante, extrêmement vive. Et je pense que justement, c'est parfois en prenant ces biais-là et en s'amusant un peu, parce que comme ça paraît amusant, les gens acceptent le débat, qu'on arrive à dire des choses intéressantes.
Donc à partir d'une problématique qui paraît peut-être un petit peu légère, effectivement on va vers quelque chose de profond. Je reviens vers vous Mélanie Chalandon, puisque les problématiques et le questionnement, ça c'est une spécificité, on n'est pas les seuls à poser des questions. En tout cas voilà, c'est vrai que les titres du Grand Hamoud depuis 10 ans d'ailleurs se caractérisent par poser une question, essayer de trouver une problématique qui résume non pas ce qui va être dit, mais le sujet en tout cas qui va être abordé. Et vous êtes penchée, Mélanie, un petit peu sur les titres du grain version
Gardette.
Voilà, version Gardette. Donc depuis 5 ans.
Et le titre version Gardette, c'est un certain goût pour le titre énigmatique. Alors j'ai relevé le 21 avril tombera-t-il un 22? Où est passée la banlieue? On a envie de répondre, eh bien, autour du centre-ville. Mourir, d'accord, mais en bonne santé. Et le titre le plus incompréhensible des 10 dernières saisons. 1 plus racine de 5 divisé par 2 égale LOL fois MDR. Je vous laisserai l'expliquer.
Je peux l'expliquer tout de suite. Alors, 1 plus, alors je me souviens plus de la formule, plus racine de 5 divisé par 2, c'est le nombre d'or, c'est la formule du nombre d'or. Et LOL, MDR, comme vous le savez tous sur les réseaux sociaux, bon, ça date d'il y a quelques années déjà, mais c'était, voilà. Ça veut dire quoi d'ailleurs, vous qui êtes plus jeune que moi, Mélanie Chalandon?
Ça veut dire.
Mort de rire, c'est quelque chose comme ça.
Ça veut dire rire sans bruit en anglais.
Voilà. Et c'était pour une émission où on se demandait si on pouvait faire rire avec la science, voilà. Alors il fallait comprendre ça, c'était extrêmement crypté.
Sinon, bah, écoutez, des titres qui essayent désespérément parfois de renouveler les angles sur des actus qui reviennent toutes les semaines et qu'on ne sait plus comment traiter. Comment être grec aujourd'hui, quelques mois plus tard, que veulent les Grecs? Faut-il se rire du AAA? C'était l'époque où toutes les bourses européennes tremblaient devant la perte du triple A, la faillite.
On n'en est pas très fiers, celui-là.
La faillite, une aubaine pour la Grèce. Il faut dire qu'Hervé Gardette, c'est l'obsession du contre-pied, un brin provoque. Peut-on faire de bons films avec de bons sentiments? Les quartiers ont-ils la police qu'ils méritent? Le centre a-t-il encore besoin des centristes? Faut-il rediaboliser le Front National? Et puis, peut-on être de gauche et mettre ses enfants dans le privé? Voilà, s'il ne fallait en retenir qu'un, Hervé, ce serait lequel?
Ce serait le dernier, justement. Peut-on être de gauche et mettre ses enfants dans le privé? C'est la question qu'on se pose tous autour de cette table, n'est-ce pas, Raphaël Yogé? Non, par exemple, je ne sais pas. Je vous prends, pardon, vous êtes un peu ma victime. Vous disiez, il y en a un que vous aimiez bien, vous, le triple A, le AAA.
Ah oui, je trouve ça drôle. Sincèrement, non. Ah, oui. Je trouve qu'il est drôle. Ma voisine aussi trouve ça très drôle.
Ça donne un Oscar.
Je pense que d'ailleurs,
il
était plus drôle à lire qu'à dire, parce que voilà, c'est plus un titre visuel. Et ça tombe bien, puisque j'ai à côté de moi à présent Hervé Marchand. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous êtes ancien journaliste à Libération. Vous faites aujourd'hui de la réalisation à Radio France. Et vous venez de publier un titre, Libé, les meilleurs titres aux éditions La Martinière. Si on vous a fait venir pendant quelques instants avec nous, c'est parce que justement, nous, on est assez fiers de notre titre au Grand Moon. Mais c'est vrai que s'il y a des maîtres en la matière qu'on aimerait de temps en temps côtoyer dans les sommets, c'est bien les titres de Libé. Quel est le titre, peut-être, qui vous a donné envie de faire ce livre?
Le titre du portrait de Mireille Mathieu, Une certaine idée de la frange.
Voilà, Mireille Mathieu, Une certaine idée de la frange, ça, c'est vraiment quand on trouve ça. Vous savez d'ailleurs, alors vous avez passé de nombreuses années à Libération, comment ça se passe, le travail pour essayer d'élaborer ces titres dont certains ont été particulièrement marquants?
Alors je raconte dans ce livre que c'est un travail collectif, mais ça commence par un travail individuel et solitaire. L'éditeur qui en charge un article doit titrer, sous-titrer, légender la photo. Et quand il ne trouve pas son titre, il fait appel à ce moment-là aux autres éditeurs et tout le monde se réunit, 2-3 personnes, et il y a un petit travail collectif qui se met en route.
Est-ce que vous êtes responsable de certains titres qu'on trouve dans ce recueil?
Non, aucun. J'ai jamais fait un seul titre pour Libé.
Bon, alors quels sont sinon les titres qu'on pourrait retenir? Alors j'en ai évidemment sélectionné quelques-uns, mais il y en a combien d'ailleurs dans votre livre?
Lesquels aimez-vous?
Alors par exemple, Climat, les calottes sont cuites. Ça c'est une question. Ça, voilà.
Je pense qu'on a tous un titre, un titre de Libé en souvenir.
Ah bah tiens, on va demander ça à nos invités.
Tout le monde a un titre de Libé en souvenir.
Gérald Brunner,
un titre qui vous a surpris.
J'ose pas le répéter.
Anna Navarro-Pedro.
C'est Gérard Lefort. J'ose pas. C'est complètement impéré, mais.
C'était sur un film, non, c'est ça?
Oui.
Chronique d'une merde annoncée? C'est
non.
Pas ça?
Non,
c'est pas celui-là. Non, c'était un film, oui, qui était à Cannes. Je me souviens plus quel était le réalisateur, mais je crois bien
on
que c'était.
On voit en tout cas celui que vous retenez.
Je le dis, c'est un très gros mot. Barban le connard. C'était Barbare au bar. Souvenez un film américain quelconque.
Connard le barbare, et c'était voilà. Barban le connard, je crois.
Barban le connard, oui.
Raphaël Yogé.
Aucun souvenir des titres en général.
Mais vous avez déjà au moins été surpris une fois par un titre de Libération. Alors vous ne lisez pas Libération.
Si, si, je lis Libération, mais je n'ai pas été surpris. Non.
Accusé, levez-vous, Julie Clarigny.
Moi, j'ai le souvenir, j'étais petite encore, de l'émoi de mes parents et des rires sur ce fameux titre qui est resté célèbre. L'URSS vous présente ses meilleurs vieux. Ah, oui. C'était au moment, après la mort de Brejnev.
Il y en a un qui reste célèbre dans la presse ibérique, portugaise et espagnole, qui, je pense, c'est Sio Franco, et j'espère qu'il est vrai. C'était Franco agonisé, le dictateur espagnol, et Libé a titré « Alors, ça vient ?»
C'est exact, ouais.
Bon, il y en a aussi que j'aime beaucoup, qui parle de l'affaire Monica Lewinsky, l'ancienne stagiaire de la Maison Blanche, qui avait eu quelques histoires, on va dire, avec Bill Clinton, tout le monde s'en souvient, et le titre, c'était « Water Braguette ». Voilà. Je pense qu'effectivement, quand on trouve ce genre de titre, est-ce qu'il y en a encore un ou deux que vous aimeriez citer, Hervé Marchand?
Oui, on peut citer « Tout fou Lacan » ou « Stakhanov se repose enfin quand il est mort ». Et puis il suffit d'ouvrir le bouquin et puis il y en a 400, donc on peut passer voilà, Idéal du gazo, Red mort, le cheval est mort au moment, les talons est mort au moment d'une saillie, ou un titre sur un fait divers, un couple divisé, un corps en morceaux, Josiane est écrouée pour le meurtre de son mari, tué et découpé après une dispute.
Bon, et tout le reste, faut le lire dans votre livre. Les meilleurs titres de Libé aux éditions La Martinière. Gérald Brunner, alors je vous redemande pas si vous vous souvenez de titres de Libé, mais est-ce que vous vous souvenez de toutes les émissions de débat auxquelles vous avez participé, en particulier au Grand Moudre? Alors la dernière, oui, elle vous a marqué, c'était il y a pas longtemps avec Jean-Marc Rouillon. Est-ce que vous vous souvenez d'autres épisodes? Vous pouvez dire non, parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je m'en souviens pas de toutes.
Si, moi je me souviens de plusieurs épisodes, pas de tous. J'ai débattu chez vous de la démocratie participative, par exemple. J'ai débattu la question du principe de précaution. Voilà, il y en a eu pas mal d'autres, mais effectivement, j'ai un peu oublié.
Raphaël Liogier.
Moi, je me souviens d'une émission qu'on avait faite sur le populisme, et où et donc l'extrême droite, le Front National, etc. Et il y avait un intervenant qui était en duplex. Et à l'évidence, on disait des choses qui étaient assez similaires, mais il ne voulait pas être d'accord avec moi. C'était assez, fascinant. C'est-à-dire que, du coup, il devait y avoir quelque chose lié à l'ego.
Il vous aimait pas, peut-être.
Ben voilà, c'est ce que je me suis dit. C'était un peu déprimant dans un sens. C'est-à-dire que chaque fois, qu'on disait qu'on était complémentaires, il disait, non, je ne suis pas d'accord. Je ne comprenais pas pourquoi finalement, t'es pas d'accord.
Alors il y a ça qui peut déprimer. Puis il y a aussi des fois quand on se retrouve face à un invité à qui vous posez des questions et qui ne répond jamais à vos questions. Quand je me suis demandé à moi-même quelle était l'émission qui m'avait peut-être le plus marqué, non pas parce qu'elle était significative des débats, mais parce que justement je m'étais retrouvé un petit peu esselé dans les questions que je posais. C'est une émission qu'on avait intitulée Xi Jinping veut-il réécrire le petit livre rouge, président chinois qui venait de dire qu'il fallait peut-être revenir à la révolution culturelle et envoyer les artistes chinois à la campagne pour se rééduquer. On avait invité plusieurs invités, dont un historien chinois qui était présent exceptionnellement à Paris, qui s'appelait Ding Dong, c'était son nom, et on nous avait dit, un de nos invités nous avait dit, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit à la question de la mémoire et dont la parole est assez libre. La parole était assez libre, mais elle était vraiment, on va dire, assez cloisonnée également. Monsieur Ding, il y a une question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure quand j'interrogeais l'historien que vous êtes à propos de la connaissance des Chinois de cette période maoïste. J'ai cru comprendre que vous aviez créé vos deux revues, notamment la revue de photos, pour justement essayer de raconter l'histoire autrement que la façon dont elle est racontée de manière officielle.
En fait, j'aimerais poursuivre ma discussion.
Vous voulez pas répondre à la question et ensuite poursuivre la discussion parce que c'est un peu compliqué. Et ensuite, je vous promets que vous pouvez poursuivre.
Parce que je n'ai pas terminé d'exposer mon opinion tout à l'heure.
Il ne reste plus que 10 minutes. Si vous pouvez juste signaler à Monsieur Ding que on n'a déjà plus beaucoup de temps.
La question de l'histoire et la question de l'art, de la culture sont très différentes, bien sûr.
Et ce Xi Jinping, ce soir, ce soir, ce n'est pas une question de l'histoire ou de la société sociale.
Et la rencontre entre Monsieur Xi et les artistes consiste à parler des questions artistiques, mais non pas de l'histoire. Peut-être si on envoie les artistes à la campagne, l'art sera apprécié par la base.
Mais l'art réside un paradoxe.
C'est-à-dire que les œuvres appréciées par la base sont des œuvres qui respirent la vulgarité.
Bon, je renonce à vous entendre sur finalement le niveau de connaissance historique des Chinois sur la révolution culturelle, mais c'est pas très grave. La discussion de toute manière a été.
Voilà, et puis finalement on a fini l'émission. Voilà, on avait eu des réponses, mais qui ne correspondaient absolument pas aux questions qui étaient posées. Ça vous rappelle d'autres souvenirs, Maurice Couturier?
Je suis pas sûr qu'il soit tant que ça à côté de la question, parce qu'il vous parle des écoles de 7 mai, de l'envoi des intellectuels à la campagne. C'est vous qui avez pas saisi l'allusion.
Ah, je comprends mal le chinois. Vous me disiez pendant cet extrait, Raphaël. Si, en fait, il répond, mais c'est la traductrice qui fait mal son travail. Non, vous ne parlez pas le chinois couramment, en fait.
Non. Pas couramment, pas suffisamment couramment.
Julie Clarini, sur ces invités, des fois, dont on a du mal un peu qu'on a du mal à faire accoucher.
Oui, enfin, moi, j'aurais plutôt envie de parler de ces questions absurdes qu'on pose aussi de temps en temps. Parce qu'elles sont quand même nombreuses. Il faut se rendre compte que parfois, 45 minutes, c'est très très long, et qu'on arrive au bout des questions raisonnables, et que là, il faut faire preuve d'imagination. Je me souviens, par exemple, un soir, on était en Roumanie avec Brice, il avait beaucoup de fièvre, les invités ne répondaient à rien, et il s'est mis à parler de l'école d'historiographie roumaine des années 30, et c'était assez fabuleux, c'était tout Brice. Et c'est un grand moment, là aussi, de solitude. On se dit, non, mais qu'est-ce qu'on fait là? Tout ça est absurde.
Et je vous raconte pas quand l'émission dure 1h40, comme aujourd'hui, pour ce 10e anniversaire, cette 10e saison du Grain à Moudre. Merci beaucoup à tous. Attention, ça n'est pas terminé. Vous avez compris que c'était assez exceptionnel qu'on se retrouve dès 17h pour fêter cet anniversaire. Raphaël Yogier, Anna Navarro-Pedro, Gérald Bronner, Benjamin Berru, Hervé Marchand, Julie Clarini, Brice Couturier, merci de nous avoir accompagnés dans cette première heure. On se retrouve à 18h20 pour des débats sous contrainte, débats tirés au sort, débats contre-argumentatifs. Vous comprendrez de quoi il s'agit d'ici une vingtaine de minutes. Et rebonsoir à celles et ceux qui nous suivent depuis 17h. Bienvenue à tous les autres. Émission spéciale du Grain à Moudre ce soir. 2 heures d'antenne à l'occasion du 10e anniversaire de l'émission. Et oui, l'ancien générique, pour vous rappeler que dans la première partie, nous avons reconstitué un couple. Julie Clarini et Brice Couturier sont eux qui ont créé cette émission il y a 10 ans. Nous nous sommes replongés dans l'histoire de l'émission et nous avons réfléchi à la question du débat avec Anna Navarro-Pedro, Gérald Bronner, Raphaël Yogier et Benjamin Berru. Alors pour cette deuxième partie, nous avons choisi de changer les règles du jeu. Dans une vingtaine de minutes, nous vous proposerons un débat à front renversé entre deux économistes. Chacun essaiera de défendre le point de vue de l'autre sur la question de la place de l'État aujourd'hui dans l'économie. Mais tout de suite, débat tiré au sort. Si vous nous avez suivis dans la première heure, vous vous souvenez peut-être que nos trois invités ici présents, à savoir Fabienne Brugère, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe Julien Damon, bonsoir, sociologue.
Bonsoir.
Et Nadia Maizy, mathématicienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez tous les trois tiré un sujet au sort. Vous en y aviez 4 qui étaient dans une corbeille. L'idée, c'était de se dire, voilà, est-ce qu'on peut, peut-être comme au grand oral de Sciences Po, dont vous me parliez, Julien Damon, que je n'ai pas passé personnellement, mais finalement, on tire aussi des sujets au sort. Et si on a bien travaillé pendant l'année, normalement, on est capable d'y répondre. Le sujet sur lequel vous êtes tombé, c'est un sujet, alors je ne le savais pas, je le rappelle à l'avance, le sujet c'est le numérique fait-il de nous une civilisation supérieure. Ce dont je me souviens, c'est que c'est un sujet qu'on a fait il y a quelques semaines en compagnie de deux philosophes déjà, c'était Milad Douéhi et Alexandre Lacroix, et puis il y avait une préhistorienne, Marilène Patou-Matisse, et oui, parce que quand on parle de civilisation, c'était aussi intéressant de s'intéresser, par exemple, à l'homme de Néandertal. Alors vous avez eu un petit peu moins d'1 heure, allez, on va dire quoi, 3 quarts d'heure pour réfléchir à cette question, qui est une question philosophique, donc ça vous convient plutôt, Fabienne Brugère, qui est une question qui parle de numérique, de programme, sans doute mathématique, donc normalement, Nadia Maizy, vous devriez pouvoir nous dire 2-3 choses, et puis Julien Damon, puisque ça modifie aussi les équilibres sociaux et que vous êtes sociologue, je ne doute pas que vous avez plein de choses à nous dire. Je vais peut-être commencer avec Fabienne Brugère, déjà peut-être poser cette question d'une civilisation supérieure, est-ce qu'on peut considérer que le numérique est une civilisation?
Non, ça, je ne crois pas. Le numérique, c'est une révolution. Il y a eu la révolution industrielle, il y a maintenant la révolution du numérique, mais ça ne constitue pas pour autant une civilisation. Une civilisation, c'est bien plus large que ça. Ça met en œuvre toute une culture, tout un rapport à la science, tout un système d'éducation. Après, ça peut participer, bien sûr, de la définition d'une nouvelle forme de la civilisation. Mais c'est pas une civilisation en tant que telle.
Nadia Maizy. sur cette question de la civilisation, puisqu'on essaie aussi d'interroger finalement nos titres dans chaque émission, et en particulier en plus d'une civilisation supérieure. D'ailleurs, je me souviens que quand on avait décidé de titrer l'émission comme ça, c'est de se dire, on a l'impression que le numérique est en train de tout changer, et que finalement, ce qui existait avant était quantité négligeable, et que l'homme allait vers une ère nouvelle. Comment est-ce que vous répondez, vous, à la question?
Alors, c'est bien de définir tous les termes, c'est-à-dire qu'il y a civilisation, mais il y a aussi numérique. Et savoir ce que recouvre le vocable, je pense que ici vous l'entendez comme tout ce qui va plutôt être de l'ordre des réseaux, de la communication. Mais derrière le numérique, il y a beaucoup d'autres choses qui se cachent et que le grand public ne mesure peut-être pas.
Comme par exemple,
tout ce qui nous permet d'avoir des représentations plus fines des modèles sur lesquels on travaille, des résolutions plus rapides et tout un tas d'avancées au niveau technologique à proprement parler.
Ce sont d'ailleurs des outils dont vous vous servez, vous, au quotidien, parce que j'ai pas précisé, mais vous dirigez une chaire de mathématiques qui élabore des programmes pour faire de la modélisation dans le domaine du développement durable et du climat en particulier.
Absolument, oui. Donc nous, on est acteurs dans le numérique puisqu'on développe des outils numériques. Mais je pense que si on rapporte ça à la question de la civilisation, on rentre peut-être sur une autre couche. Et la question que moi, je voudrais savoir, c'est le référentiel dans lequel on va se placer. Dire qu'on est supérieur, ça veut dire qu'il y a une base par rapport à laquelle on discute.
En tout cas, il y a une comparaison. Julien Damon, est-ce qu'on peut dire que le numérique, c'est une rupture et une rupture sociétale?
Ah, il faudrait définir ce que c'est que sociétal par rapport à social, pour commencer. Mais ce qui pourrait faire le thème d'une émission en soi.
C'est bien parce qu'en définissant tous les termes, on devrait arriver à peu près à 18h40.
À peu près. Et quand on fera les 20 ans de l'émission, on aura une encyclopédie complète et qui sera utile. Non, puisqu'il faut soutenir des positions relativement nettes, je pense que le numérique change énormément de choses. Mais pour prendre une expression quasi-situationniste, le numérique ne casse pas toutes les briques. Hein, ça ne passe pas beaucoup de briques en réalité. Je pense que ça améliore nos existences, ça optimise nombre de dynamiques, de processus, ça permet à pas mal de gens même de sortir de la pauvreté, même si vous avez des problèmes d'emploi qui se posent dans les pays riches. Certains soutiennent même que la révolution numérique, elle est déjà passée. Nous aurions, avec l'avènement de l'Internet, le développement des smartphones, déjà tous les outils, et le moment de rupture serait terminé. Ce qui est vrai, je pense, c'est que le numérique, en termes de civilisation, conduit à de nouvelles incivilités. Et c'est un grand sujet. Je trouve que le numérique, c'est le smartphone, c'est notre casque sur les oreilles, mais qui hurle de la musique dans le métro. Et ça, c'est pas forcément supérieur par rapport à des sociétés un peu plus décentes et policées.
Ça pourrait presque nous inciter à reformuler la question du soir et se demander si la civilisation numérique fait de nous, si le numérique fait de nous une civilisation, alors peut-être pas inférieure, mais en tout cas beaucoup plus indisciplinée, parce qu'on a peut-être moins besoin d'engranger des connaissances. On les trouve très facilement, par exemple sur Internet, Fabienne Brugère.
Oui, alors, c'est compliqué, parce que le numérique, certes, c'est à la fois peut-être une certaine critique du principe d'autorité, ça introduit de l'immédiateté, ça introduit de l'horizontalité, mais parfois, c'est aussi quelque chose d'un peu illusoire, parce qu'il y a bien derrière une fabrication de cadres. On sait bien, par exemple, que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a des images interdites, il y a des principes de censure, donc il y a aussi des cadres. Donc c'est à la fois une critique du principe d'autorité, mais il y a aussi des cadres, il y a aussi des règles. Donc c'est plus compliqué que ça. Et donc je crois que ce qu'il faut surtout penser avec le numérique, c'est un certain nombre de changements, qui affectent largement en premier la jeunesse. Hein. C'est devenu très compliqué d'être parent et de dire à ses enfants de décrocher de leur smartphone. Il y a vraiment un principe, en revanche, je trouve, d'addiction, et le principe d'une société addictive au numérique.
On pourrait peut-être même parler d'asservissement au numérique, Nadia Maizy.
Oui, mais pour revenir sur le côté indiscipline, moi je pense qu'on a eu un exemple très récemment avec une fameuse pétition dans laquelle...
Contre la loi travail, j'imagine.
Voilà, exactement. Et dans laquelle on peut voir que peut-être qu'on essaye de rediscipliner le pouvoir politique, en fait. qui lui peut bon, je m'engage dans une pente un peu glissante, mais
allez-y, hein. C'est le jour ou jamais.
Donc peut déraper par rapport à ses propres engagements, on va dire. Et donc je trouve que là, il y a une leçon qui a été donnée sans doute dans l'usage raisonné finalement de cet outil qui parfois peut montrer d'autres travers.
La spécialiste, enfin spécialiste en tout cas, la philosophe qui réfléchit beaucoup aux questions de démocratie participative, Fabienne Brugère, ne peut qu'adhérer à ce que vient de dire Nadia Maizy.
C'est vrai que sur la loi, par rapport au projet, au pré-projet de loi travail, ça a vraiment permis une mobilisation très rapide, des signatures immédiates, la possibilité de se réunir pour des manifestations. On l'a bien vu aussi dans les révolutions arabes, dans ce qu'on a pu appeler les révolutions arabes, le rôle aussi du numérique, des réseaux sociaux qui ont permis vraiment des diffusions d'informations, qui ont permis des formes de soulèvement. Le problème, en revanche, je trouve, de la révolution numérique et de la manière dont elle participe peut-être d'un modèle de civilisation, c'est après, je crois, la difficulté à construire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un rapport à l'immédiateté, à la spontanéité, à l'horizontalité, et tout ça, c'est très intéressant. La question, c'est de savoir après comment on fait avec le temps, comment on fait avec la durée et comment, du coup, on arrive à construire. Et sur la démocratie, c'est bien cette question-là qui est aussi en jeu aujourd'hui.
Julien Hamon.
Oui, je voulais faire une remarque sur le sujet d'actualité qui est le projet de loi Travail, anciennement projet de loi El Khomri.
Sortez pas du sujet, n'en profitez pas.
J'ai retombé sur métier, ne vous inquiétez pas. Dans ces 130 pages et 52 articles que absolument personne ou presque n'allume mais qui mettent les gens dans la rue, vous avez une disposition intéressante qui est le droit à la déconnexion. C'est donc le droit à sortir de cette civilisation numérique. Mais c'est une aberration car en fait on est connecté 24 heures sur 24 et notre sujet c'est d'arriver, je pense, à nous discipliner pour faire face à nos addictions face au numérique.
Enfin, c'est pas seulement discipliner, c'est aussi peut-être discipliner sa hiérarchie, en tout cas pouvoir mettre face à sa hiérarchie ce droit à la déconnexion et ne pas être obligé d'être au travail, y compris quand on est chez soi.
Oui. Vous dites hiérarchie pour vos supérieurs hiérarchiques, mais on parlait aussi de nos enfants. Donc le grand sujet, c'est d'arriver à nous discipliner nous-mêmes.
Moi, je pensais tout de suite au patron, vous voyez.
Faire attention au patron, et également à dire à nos enfants de se comporter, je pense, de manière raisonnable face à cet outil qui a ses vertus, mais ses défauts, bien entendu.
Nadia Maizy.
Là-dessus, je pense que le problème, c'est que le dérapage est général. Parce que nos enfants, ils ont bon dos. Mais je crois que quand on se promène dans la rue, on peut être frappé par le fait que plus personne ne regarde ce qui se passe au-delà d'un petit écran qu'il a dans la main droite. Donc je crois qu'il y a là une vraie question de civilisation globale. Et en fait...
Donc le terme de civilisation, là, finalement, vous le récupérez.
Finalement, je veux bien le récupérer pour cet objet-là. Et du coup, je pense que cet outil, c'est peut-être quelque chose qui est en transition. Donc on a vu que c'est une naissance finalement assez proche, la fin des années 40, avec le déploiement de ce qu'on appelle l'informatique et qui aujourd'hui est démocratiquement déployé. Mais je ne suis pas sûre qu'on soit encore dans la stabilité qui pourrait faire qu'on pourrait conclure soit oui, soit non, on est dans une civilisation qui s'est dégradée ou alors qui s'est améliorée suite au déploiement de cet outil maîtrisé. Je pense qu'il est non maîtrisé à la fois dans notre pratique professionnelle. Il y a quelques entreprises qui ont essayé de limiter l'usage du numérique avec interdiction d'utiliser pendant une journée par semaine son accès au mail. Ils sont revenus là-dessus très rapidement. Et je pense que chacun, on a des exemples personnels qui font que, on va sortir de là, puis pof, on va regarder notre téléphone vite pour voir si on a reçu quelque chose, alors que c'est totalement irrationnel comme comportement.
Julien Damon.
Non mais c'est exact, hein. On a du mal à gérer nos impulsions ou nos pulsions face à ce nouvel instrument. Et cet ensemble de nouveaux instruments qu'est le numérique. Je pense même que sur la question qui nous est posée, la civilisation matinée de numérique ou la civilisation numérique est-elle supérieure? Moi, je plaiderais pour une réponse très positive. Elle est supérieure parce que tout le monde peut avoir accès, tout le monde ou presque, d'ailleurs il y a quand même un grand sujet de fracture numérique, mais tout le monde ou presque peut avoir accès à la connaissance. Ce numérique accélère un ensemble de progrès techniques qui nous fait vivre, la plupart d'entre nous, plus vieux, mieux, en meilleure santé. Donc c'est quand même quelque chose de formidable.
Il y a aussi l'idée que ça crée de l'intelligence collective et que ça transcende finalement les individus, Fabienne Brugère. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que par moment, quand on parle de cette rupture ou de cette révolution numérique, il y a une forme un peu d'arrogance par rapport à ceux qui n'y seraient pas encore passés.
Oui, mais après, le numérique, ça dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. C'est pas bon ou mauvais en soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui surgit, et puis par rapport à ce surgissement, il y a à la fois des mauvais usages. Bah, c'est effectivement les patrons qui font pression sur leurs employés pour qu'ils soient toujours employables, et le numérique le permet. De l'autre côté, il y a des démarches comme les Anonymous, il y a des démarches comme Snowden, il y a des choses qui sont donc en dehors finalement des pouvoirs et qui valent même comme des critiques et donc comme des collectifs critiques des différentes formes de pouvoir. Donc est-ce que c'est quelque chose de supérieur? Je crois que la question elle est pas tant là que de dire c'est un moyen de faire autrement, c'est un moyen de diffusion, de communication avec ses débordements, avec à la fois ses cadres, ses marges, et ça recrée toujours des positions comme ça en termes de cadres et de marges finalement.
Alors, je dois dire que je suis un petit peu déçu par vos réponses aux uns et aux autres, Julien Damon, Fabienne Brugère et Nadia Maizy. Non, vous allez avoir une note excellente, mais puisque vous ne connaissiez pas le sujet, il y a moins d'une heure que vous l'avez tiré au sort. Alors certes, on vous a donné une petite documentation, mais j'espérais que vous séchiez davantage. Est-ce que vous êtes servi finalement de manière absolument remarquable des quelques documentations qu'on vous a fournies, ce qui permet de tenir cette conversation aussi brillamment, Nadia Maizy?
Le numérique, c'est notre quotidien, donc c'est plutôt facile. Et puis, il y a énormément d'exemples, en fait, qui illustrent les très mauvais usages qu'on peut en faire comme les meilleurs. Donc, je pense que ça prouve bien que ça fait partie de notre civilisation et que c'est des questions, en fait, qui sont très importantes parce que ça tombe dans le meilleur comme dans le pire. C'est effectivement un accès à l'information, mais également à n'importe quelle information, c'est les rumeurs, c'est le révisionnisme, c'est le fanatisme, c'est tout un tas de choses qui maintenant se déploient à très très grande échelle, très rapidement, et sur lesquelles on n'a plus aucun contrôle.
On aurait dû vous soumettre un sujet plus compliqué, Julien Damon.
Ah, peut-être, mais je pense que nous aurions été davantage ridicule à avoir un sujet très compliqué sur lequel on aurait eu à gloser à partir des quelques notes que vous nous auriez passées. Mais tout de même, sur l'émission et sur l'anniversaire qui nous réunit, vous cherchez à réunir des gens qui connaissent généralement la question qui est posée. Là, la question qui est posée, tout le monde, ou presque dans le monde entier, a quelque chose à dire puisqu'on a ces expériences. C'est une différence de votre émission par rapport à d'autres émissions sur d'autres ondes, mais qui sont très bien par ailleurs, mais qui n'invitent pas des experts. Je sais que tout à l'heure, vous avez débattu de savoir si on était ou non des experts, mais qui invitent des toutologues. Vous savez, toutologues, c'est des gens qui sont spécialistes de tout. Et donc, quel que soit le sujet, en effet, vous leur envoyez un SMS une heure avant et ils deviennent des grands spécialistes de la révolution en Syrie, des algorithmes de l'école des mines ou de l'école polytechnique, de la choucroute, etc. Là, le sujet est si large qu'on peut avoir des idées relativement raisonnées sur la question.
Ça vous est déjà arrivé d'être sollicité sur un sujet dont vous n'étiez absolument pas... sur lequel vous n'étiez absolument pas compétent.
Par vous, la première fois que je suis venu au Grain à Moudre, c'était avec Brice il y a pas 10 ans.
Ah oui, c'était Brice Couturier, Julie Clarine.
8-9 ans, voilà, ils avaient fait une bêtise.
Je comprends mieux.
Il m'avait invité avec ce monsieur du Parti Socialiste, Gérard Filoche, et on parlait en pleine bagarre du CNE et du CPE, que je connais un tout petit peu, mais je ne suis pas spécialiste. Et moi, je lui avais parlé du CDE, qui est le contrat à durée éternelle des fonctionnaires. Et là, ça avait été la bagarre générale. Mais je n'étais pas spécialiste.
En fait, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur le numérique. J'aurais plus de choses à dire, par exemple, sur le « nous ». Moi, ce qui m'intéressait en bonne philosophe dans le titre, c'est le « nous ». Le numérique fait-il de nous une civilisation supérieure? Qui est ce « nous » hein? Je vous pose la question, Hervé Gardette, c'est qui ce « nous »
Je vous aurais volontiers répondu, Fabienne Brugère, mais vous savez quoi? L'heure tourne, il faut passer à la suite. En tout cas, merci beaucoup. Voilà,
ça permet un mot quand même. Non, mais ça vous fait une question pour une prochaine émission qui est « qui sommes-nous ?»
Ah oui, ça c'est pas mal. Voilà, on a un prochain titre. C'est plutôt une bonne idée. Ouais. Tiens, merci beaucoup, Fabienne Brugère, Julien Damon et Nadia Maizy, d'avoir participé à ce petit exercice. C'est vrai que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. L'idée, c'était pas non plus de prouver par l'absurde qu'on peut parler de tout avec n'importe qui. Mais là, je trouve que vous en êtes particulièrement bien sorti. Alors, vous savez, donc, on fête les 10 ans de l'émission. On a
calculé à la louche, ça fait environ 2000 débats avec un dispositif extrêmement simple à chaque fois, c'est-à-dire une table, des micros et puis des invités autour. Et on s'est posé la question de savoir si on pouvait dupliquer un tel dispositif sur une scène, si justement au théâtre on pouvait faire de la mise en scène de débats. Alors Céline Leclerc, qui fait partie de l'équipe de l'émission, a eu l'idée d'aller interroger un metteur en scène de théâtre. C'est Bernard Sobel, qui a dirigé le Centre dramatique national de la commune à Gennevilliers de 1983 à 2006. Il travaille actuellement à la mise en scène de Herzog Theodor von Gotland, une tragédie de Christian Dietrich Grabeux. Vous constaterez que ma maîtrise des langues étrangères est toujours aussi bonne. Et il nous explique donc, Bernard Sobel, sa vision du débat d'idées en tant qu'homme de théâtre.
Pour moi, le théâtre est le lieu du débat et il est le véritable lieu du débat d'idées. C'est-à-dire, il est une tentative de donner chair à ce que le simple sténogramme de débats qui ont eu lieu ne peut pas faire. Aujourd'hui, à la radio, à la télévision, par exemple, il y a un immense débat qui se déroule par rapport au problème du code du travail. Donc c'est un débat. Et la difficulté pour les poètes, c'est de donner la parole à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui ne participent pas au débat. Et ça n'est pas facile, parce que la parole d'un Gattaz, c'est une chose, d'un Mélenchon, c'en est une autre, mais ce n'est pas le débat qu'il y a dans la tête de tout le monde. Et je pense que le théâtre tente, lui, de donner corps à ce dialogue qu'a chacun d'entre nous en tant qu'individu, seul, avec lui-même, et ce dialogue qu'il a avec lui-même, ce débat, d'une certaine façon, avec ce qui arrive. Dans le fond, moi j'ai l'impression que si on va jusqu'au bout d'un raisonnement, on est le résultat de multiples débats qui ont eu lieu dans l'histoire de l'espèce humaine et dans l'histoire de notre pays, et tout ça. Donc, c'est ce qui nous permet de dire « je suis moi », et « moi, c'est nous, quelque part ». Je ne peux pas soliloquer seulement avec moi-même. Et celui avec lequel je débats à l'intérieur de moi, c'est la communauté humaine. Moi, je dirais, et c'est pourquoi il me semble que le travail que je fais peut en quelque sorte être utile, c'est que c'est la grande noblesse de l'être humain d'être en débat constant. Et donc, le théâtre est une des choses qui rend compte de ce débat.
Avec vous, au Salon du Livre,
Du Grain à Moudre fête ses 10 ans.
Joyeux anniversaire!
Voilà, c'est la dernière partie de cette deuxième partie de ce grain spécial, puisque nous sommes ensemble depuis 17h et jusqu'à 19h, comme chaque fois, donc en direct du Salon Livre Paris, avec deux nouveaux invités qui viennent de temps en temps aussi nous rendre des petites visites au grain. Deux économistes, Jean-Marc Daniel et Dominique Plion. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous avez accepté de répondre à notre invitation pour ce qui est peut-être l'idée la plus farfelue de la soirée. Je vais expliquer comment elle nous est venue. Il y a quelques mois de cela, nous avions fait une émission qu'on avait intitulée « Qui peut juger de la légitimité d'une décision politique ?». Parmi nos invités, il y avait Fabienne Brugère, qu'on vient d'entendre à l'instant. Il y avait Gérald Bronner, qui était là tout à l'heure dans la première heure. Et puis le philosophe Pierre-Henri Tavoyau. Et à la fin de l'émission, il nous explique que ce qui serait intéressant pour parler, puisqu'on était arrivé à parler de démocratie représentative, de démocratie participative, il nous dit, par rapport au débat et pour essayer peut-être d'arriver à des formes de consensus, il faudrait que de temps en temps, vous proposiez à vos invités de tenir l'avis inverse de celui qui est le leur d'habitude. Ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Alors, on lui avait dit, excellente idée, nous allons le faire. Et quand on a su qu'on allait faire ce 10e anniversaire, on s'est dit, tiens, s'il y a un sujet particulièrement clivant depuis 10 ans, et sans doute d'ailleurs bien au-delà, c'est celui de l'économie. Et vous avez accepté l'un et l'autre de vous livrer ce petit jeu, Jean-Marc Daniel et Dominique Plion. Alors, Jean-Marc Daniel, je rappelle, j'explique que vous êtes professeur associé à l'ESCP Europe, libéral, vous revendiquez comme tel.
Absolument.
Votre dernier ouvrage, c'est Valls Macron, le socialisme de l'excellence à la française, pour un manifeste feuillant aux éditions François Bourin. Peut-être que vous aurez l'occasion de caser les feuillants dans la discussion, sachant que je vous rappelle, vous n'êtes pas censé tenir des propos pour défendre le libéralisme, mais au contraire...
Ce soir, je dois être montagnard. Le Feuillant, c'est mon partenaire.
Et c'est donc Dominique Plion, professeur d'économie financière à Paris 13, porte-parole d'Attaque France. Votre dernier ouvrage, c'était « Au lien qui libère ». L'an dernier, un ouvrage que vous aviez dirigé, « Le livre noir des banques ». Alors, on vous a soumis un sujet assez classique en économie, c'est « L'État est-il le problème ou la solution ?» Et je voudrais démarrer cette discussion entre vous deux, à front renversé, donc par l'actualité du jour, qui est la hausse du point d'indice des fonctionnaires, qui était gelée depuis 2010. Jean-Marc Daniel, est-ce que vous considérez que l'augmentation 1,2% de hausse du point d'indice des fonctionnaires est une bonne mesure?
Alors, si j'adopte le point de vue montagnard, je vais d'abord rappeler que nous fêtons aujourd'hui aussi, quasiment jour pour jour, les 40 ans de la démission de Harold Wilson, qui était le dernier Premier ministre du Royaume-Uni digne de ce nom, qui avait mené des politiques keynésiennes et qui avait sorti le Royaume-Uni, après la politique de Attlee, de la pauvreté, et qui avait permis à l'ensemble de la population britannique de bénéficier de la croissance économique. Depuis, le Royaume-Uni et l'ensemble de l'Europe occidentale subissent les politiques néolibérales qui sont à l'origine de l'appauvrissement et du ralentissement de la croissance. Alors justement, nous avons l'occasion, au travers de la décision qui va être prise sur les fonctionnaires, de rompre avec ces politiques d'austérité. Je pense qu'il y a trois arguments qui sont en faveur de cette rupture. Le premier argument, c'est que l'économie étant dans le chômage, et puisque, comme on le dit, ce sont les carnets de commandes qui font la croissance, pour qu'il y ait des carnets de commandes, il faut qu'il y ait de la demande. Pour qu'il y ait de la demande, il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat. Pour qu'il y ait du pouvoir d'achat, il faut qu'on distribue des salaires. Donc, commençons par distribuer des salaires dans la fonction publique. Deuxième élément, ça coûte pratiquement rien. Pourquoi ? Parce que ce qui est budgété, normalement, c'est pas...
Attendez, ça coûte rien. 2,4 milliards. Hein.
Voilà. Mais ces 2,4 milliards vont être empruntés. Et dans les budgets, il y aura le versement des intérêts sur cette dette. Et donc, au niveau des taux d'intérêt actuels, ça coûtera pas 2,4 milliards, mais ça coûtera 20 millions d'euros. Donc, il vaut mieux augmenter de 10% les salaires, parce que ça coûtera 240 millions. Et ça, c'est... Ça aura un choc économique et c'est tout à fait supportable. Et le troisième élément, je pense qu'il faut avoir conscience que on ne gagne pas à démotiver des gens en baissant ou en gelant leur salaire. Et donc la paupérisation organisée de la fonction publique est synonyme de dégradation du service public.
Voilà, Dominique Plion. Jean-Marc Daniel nous dit qu'il aurait fallu aller jusqu'à 10% d'augmentation. J'imagine que vous n'allez pas être d'accord avec ça.
Oui, 10%, c'est presque ce que demande un syndicat qui demande, je crois, 8% de hausse. C'est totalement irresponsable. Nous sommes dans un pays où pratiquement la moitié des ressources produites sont transitées par l'appareil d'État, y compris la protection sociale. C'est cela qui explique pourquoi la France est un pays qui se porte très mal, avec un taux de chômage absolument record, et que donc vouloir aujourd'hui augmenter les salaires des fonctionnaires alors que nous sommes dans une situation dramatique... C'est quelque chose de vraiment incompréhensible de la part d'un gouvernement qui se prétend responsable et surtout moderne. Moderne, c'est-à-dire que si on est moderne, eh bien, on doit absolument combattre ce monstre qu'est l'État aujourd'hui, ce monstre qui est né au 18e, 19e siècle, qui n'a cessé de se développer et qui aujourd'hui paralyse une grande partie de nos sociétés, de nos économies. Donc je crois que là, vraiment, il y a une incompréhension de ma part par rapport à cette politique qui a été décidée aujourd'hui.
Et ça passe, Dominique Plion, par une baisse importante de la masse salariale ?
Non, ça passe pas forcément par une baisse de la masse salariale, mais ça passe par une stabilisation au minimum de la masse salariale. Il faut arrêter de développer la masse salariale des fonctionnaires. Ou plutôt, oui, une baisse de la masse salariale, non pas en baissant les salaires, mais plutôt en réduisant considérablement le nombre de fonctionnaires. Il y a un caractère improductif de cette fonction publique qu'il faut absolument dénoncer. Et je pense que, là, de ce point de vue-là, ce gouvernement ne fait pas ce qu'il avait dit qu'il ferait, d'ailleurs. C'est de rationaliser l'appareil d'État, de le rendre moins pesant sur l'économie et la société. C'est exactement le contraire qui se produit.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, Jean-Marc Daniel, revenir à la règle qui était celle du précédent quinquennat, du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux ?
Non, c'est totalement arbitraire. C'est-à-dire que supprimer un fonctionnaire sur deux, ça ne correspond pas à une réflexion sur la réalité, l'organisation et le service rendu. Or, ce qu'on constate dans la réalité, l'organisation et du service rendu, dès qu'on rentre dans les détails, dès qu'on rentre dans la vie quotidienne des gens, tout le monde est obligé de constater que les hôpitaux sont en sous-effectif, que les écoles manquent de moyens, que nos classements dans les classements internationaux sur les performances de notre système éducatif n'arrêtent pas de reculer, ce qui signifie que les moyens qui sont mis à la disposition de la population ne sont pas ceux dont elle est en droit d'attendre. Donc il faut augmenter ses moyens et d'autre part...
Donc si vous dites en gros, si la population n'est pas peut-être pas toujours satisfaite du service rendu par l'État et donc par les fonctionnaires, ça n'est pas parce que ils sont trop nombreux et qu'ils font peut-être mal leur travail, c'est parce qu'il faudrait qu'ils soient plus nombreux.
Oui, c'est parce que supposer qu'ils fassent mal leur travail, c'est faire un procès, alors que choisir la fonction publique, c'est choisir, compte tenu des rémunérations d'ailleurs qu'on a dans la fonction publique, c'est choisir un métier sur la base d'une forme de dévouement. Et donc, considérer que ces gens-là ne font pas leur métier correctement est un procès d'intention qui est à la fois... absolument odieux sur le plan intellectuel et totalement irréel sur la réalité de ce que vivent au quotidien les Français. Et d'ailleurs, je pense que un des moyens aussi de lutter contre le chômage, c'est d'augmenter l'emploi public. Plus on augmente l'emploi public, plus on répond de façon immédiate et instantanée à ce besoin qu'ont les gens d'avoir un emploi.
Bah, c'est pas faux, Dominique Lillon. D'autant que plus on augmente l'emploi, plus on crée de la richesse.
Je serais tout à fait d'accord. Simplement, dans les hôpitaux ou dans toute une série de services publics, il faut que ce soit des acteurs privés. Il faut privatiser ces instances.
Aujourd'hui,
regardez les États-Unis. Dans les hôpitaux américains, vous avez du personnel privé. On externalise les fonctions. C'est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, les Américains payent beaucoup moins d'impôts. Le système de santé américain est, de ce point de vue-là, beaucoup plus satisfaisant. Donc, le problème en France, c'est pas qu'il y a trop de monde dans les hôpitaux, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires dans les hôpitaux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il faut responsabiliser les gens, il faut que ce soit les acteurs privés qui sentent en permanence la loi du marché pour accomplir dans les bonnes conditions leur travail. Et ça, cette pression du marché n'existe pas dans la fonction publique. C'est une catastrophe.
Bon, c'est vrai que c'est assez convaincant ce que nous dit Dominique Plion, Jean-Marc Daniel. Cette pression du marché, en tout cas, au moins une mise en concurrence. Et là où il y a du privé, c'est vrai que peut-être que parfois le service public n'est pas indispensable. Est-ce qu'on pourrait pas au moins réduire le périmètre de l'État?
Mais réduire le périmètre de l'État, ça supposerait que le privé soit capable d'anticiper le long terme. Or, le privé vit au jour le jour. Le privé a des obligations vis-à-vis de ses actionnaires, dont chacun sait qu'il réclame des rendements immédiats et à des niveaux qui sont en général irréalistes. Alors que le public a une capacité à se projeter dans l'avenir. Le public est porteur d'un avenir commun, d'un avenir partagé. Et si on avait confié à la SNCF privatiser le TGV, nous n'aurions jamais eu de TGV. Si on avait confié à EDF privatiser la production d'électricité, nous n'aurions pas eu l'électricité la moins chère d'Europe. Donc cette idée que le privé, sous prétexte que la concurrence fait pression pour exiger de l'efficacité, est une idée qui est infirmée par la réalité au quotidien.
En même temps, EDF et la SNCF ne se portent pas très bien actuellement.
Mais le fait qu'ils soient en déficit n'est pas important. Le fait, c'est que s'ils sont en déficit, la collectivité paiera par des subventions ce qui correspond à un service rendu. Il faut raisonner en termes de service public, de service rendu, et non pas en termes de profitabilité.
Bon, c'est vrai que sur EDF, par exemple, ou sur la SNCF, si on attendait seulement d'avoir un service qui vienne du privé, Dominique Plion, il n'y aurait sans doute pas toutes les innovations qui font aussi la force de la France et de l'industrie française. Et comme le disait Jean-Marc Daniel, le TGV, voilà quand même quelque chose dont on peut être fier aujourd'hui en France et qui n'aurait pas existé avec seulement le privé.
Non, je pense que les innovations viennent principalement des laboratoires de recherche privés, dans les grandes entreprises. Regardez les États-Unis, encore une fois, c'est les innovations. Vous parliez tout à l'heure du numérique dans votre émission précédente. C'est essentiellement des laboratoires privés, c'est essentiellement des initiatives, des acteurs privés qui, avec l'appât du gain, de la rentabilité, sont stimulés par le fait de créer de nouveaux produits qui, demain, leur permettront d'avoir des rendements élevés. Donc je pense que ce stimulus-là n'existe pas dans le secteur public, et c'est un vrai problème. Donc c'est un facteur d'inefficacité.
Donc il faudrait qu'il y ait presque une approche de rentabilité dans les services publics pour que, au moins si on ne les fait pas totalement disparaître, ils puissent être sur le même mode que le secteur privé.
Non, je crois que c'est impossible. Je crois que c'est impossible. Le secteur public est réfractaire et n'est pas par nature en mesure de prendre en compte ce critère de rentabilité, ce critère d'efficacité économique qui est quand même le seul véritable. Je crois qu'il faut que ce soit des acteurs privés qui prennent en charge ces responsabilités. Et vous disiez que les entreprises publiques jouent un rôle très important, mais en France, elles sont en train de plomber le budget de l'État. Regardez l'affaire Areva. Regardez combien le nucléaire, qui est pourtant une des fiertés de notre pays, regardez à quel point aujourd'hui il est plombé par les hauts fonctionnaires qui ont pris des responsabilités et des décisions sans aucun contrôle de la part d'appareils d'État. S'ils avaient été des acteurs privés, sous contrôle des actionnaires, alors ils n'auraient pas pris les décisions catastrophiques qu'ils ont prises. Donc je crois que là, il y a vraiment une démonstration de l'inefficacité des acteurs publics.
Oui, l'affaire Areva n'est pas terminée. On verra comment ça se terminera. Porter tout de suite un jugement négatif sur Areva parce qu'on passe une période difficile pour cette entreprise, c'est avoir une vision à court terme. Et cette vision de court terme, cette vision d'accaparement de profits à court terme, en plus génère des mécanismes d'inégalité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des gens qui accumulent très rapidement des richesses très importantes, ce qui n'est pas le cas dans le secteur public, avec comme conséquence un sentiment d'injustice qui crée un problème de tension sociale et un problème de mise en cause de la pérennité du contrat social.
Je ne suis pas d'accord. Il y a une forme d'aristocratie dans la haute fonction publique française, c'est-à-dire qu'il y a un système complètement dual. Il y a les hauts fonctionnaires, qui ont d'ailleurs souvent des salaires tout à fait raisonnables, et bien supérieurs à ceux de leurs collègues, qui sont aujourd'hui ceux qui prennent les décisions, et le fonctionnaire lambda est dans une situation d'infériorité, et il y a vraiment aussi une division, enfin une inégalité tout à fait importante dans le secteur public, il n'y a pas que dans le secteur privé. Hein. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est inacceptable. Regardez, la France, de ce point de vue-là, est vraiment emblématique. Quand on regarde la bourgeoisie ou l'aristocratie de la haute fonction publique qui prennent des décisions qui sont irresponsables, je crois que là, il y a véritablement un besoin de réformes profondes.
Bon, alors, l'État est-il la solution au problème? C'est la question que nous posions dans ce débat. Alors, attention, si vous connaissez et Jean-Marc Daniel et Dominique Plion et que vous nous écoutez depuis quelques minutes, vous vous dites peut-être, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de passer dans la quatrième dimension. Non, je rappelle, hein, c'était un débat sous contrainte où on vous demander à l'un et à l'autre, et franchement bravo parce que vous l'avez fait de manière magnifique, vous avez défendu le point de vue inverse à celui qui est le vôtre. Est-ce que c'est un exercice qui vous a plu, Jean-Marc Daniel? Ça fait pas trop souffrir quand même d'être le défenseur comme ça de l'État, vous qui d'habitude défendez le point de vue inverse?
Écoutez, franchement, pour une fois que je suis d'accord avec Dominique Plion, je vais pas regretter cette émission.
Dominique Plion. J'ai trouvé très amusant. J'ai hésité à venir à cette émission parce que je me dis, défendre les idées auxquelles je ne crois pas, c'est un peu difficile. Mais là, bon, c'est un échange intéressant et puis cordial. Donc voilà.
Oui. Vous êtes particulièrement bien. On est resté entre gens de bonne compagnie. Je crois que c'était important pour que le débat, quelle que soit la façon dont on organise le débat, que les gens réfléchissent à ce que dit l'autre et non pas cherchent l'invective immédiatement.
Mais est-ce que c'est intéressant, alors justement, d'essayer de se mettre à la place de l'interlocuteur qui n'a pas le même point de vue pour peut-être aussi essayer de démonter son argumentation, quitte à aller dans l'excès, parce que par moment, effectivement, hein, Dominique Plion, vous n'êtes pas gêné hein, pour en rajouter un petit peu quand même.
Oui, bien sûr. Non, mais je crois que c'est le vrai débat, c'est quand on essaie de comprendre ce que veut dire l'autre pour essayer de le déstabiliser sur les points où il apparaît plus fragile, par exemple. Je pense que ça fait partie de l'art du débat, mais nous ne venons pas uniquement pour l'art du débat, on le fait aujourd'hui parce que c'est l'émission et c'est ce qui nous est demandé, mais je pense qu'on a aussi des convictions et c'est ça qui est important, je pense que c'est ce qu'attendent nos auditeurs, c'est d'avoir des gens qui ont des convictions. On peut ne pas être convaincu par leurs convictions, mais au moins ils l'ont fait et je crois que d'une manière sincère. Et je crois que c'est ça aussi qui est attendu par les auditeurs.
Voilà, il ne s'agissait pas non plus hein, à travers ce débat de dire que vous êtes capable de défendre tout et son contraire, mais c'était voilà plutôt un exercice intellectuel qui nous amusait de faire. On le fera qu'une fois tous les 10 ans, donc on verra bien dans 10 ans. Benjamin Berru qui était avec nous en première partie d'émission, je rappelle, vous êtes politologue, professeur en sciences de la communication. Vous avez écouté les deux débats, donc le débat tiré au sort et puis ce débat contre-argumentatif, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. Je vous avais demandé de nous faire peut-être un petit débrief de ce que vous avez entendu, non pas sur le fond, mais en tout cas sur la forme. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ce que ça m'inspire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux types de débats globalement. Il y a celui qui sert à l'auditeur à confirmer son opinion et celui qui sert à se forger une opinion, c'est-à-dire à se poser une question. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première partie, on avait un intervenant qui disait « Un jour, je me suis retrouvé à débattre. J'ai l'impression que j'étais d'accord avec la personne en face de moi, mais lui, il voulait pas être d'accord. » Mais c'est extrêmement simple, parce que c'est-à-dire que la personne en face tenait sa posture. Là encore, on a un rôle à jouer vis-à-vis des auditeurs, donc il faut que tenir sa posture, même jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'absurde, comme on a pu le voir là. Et ce qui est ensuite important, c'est que chacun, tenant sa posture, l'auditeur puisse participer et se dire « Bah tiens, je prends parti pour un tel ou je me forge mon opinion vis-à-vis avec les arguments. » Intéressant aussi sur le premier débat sur le numérique, c'est qu'on se rend compte que sur un débat moins maîtrisé, un peu moins expert, ou des intervenants en tout cas sont un peu moins experts, on arrive sur deux points de vue opposés. Alors avec le numérique, c'est très fréquent. Il y a le point de vue utopique, le point de vue dystopique. Et finalement, on arrive à une conclusion qui est « soyons entre les deux ». Voilà, donc la posture et l'utilité du débat pour l'auditeur, c'est fondamentalement que les débatteurs tiennent leur posture.
Mes chers amis, il se fait tard.
Et même nous qui n'avons pas vu, ressentons le besoin d'aller dormir.
J'espère que vous avez passé une bonne soirée, Foubro.
Ah oui, un de mes meilleurs anniversaires.
Faudra revenir.
Au prochain, bien sûr.
Aha! Happy birthday!
Thank you, honey!
Voilà, je voudrais vraiment adresser un grand merci à tous nos invités de ce soir qui se sont prêtés à nos petits jeux. Julien Damon, Nadia Maizière, j'ai un gâteau d'anniversaire. Fabienne Brugère, Jean-Marc Daniel, Dominique Pillon, Raphaël Liogier, Benjamin Berru, Anna Navarro-Pedro, Gérald Brunner, évidemment, Julie Clarini et Brice Couturier. Et puis un grand merci, bien entendu, à tous les invités qui acceptent à chaque fois de venir débattre sur des sujets. Moi, je suis toujours surpris que les gens acceptent aussi facilement, sachant qu'on ne rémunère pas les invités. Hein, vous me confirmez, Dominique Pillon et Jean-Marc Daniel. Hein. On vous donne rien en échange. Je voudrais également remercier l'équipe technique de ce soir au Salon du Livre, Clément Daté et Élise Leu, puis toutes les équipes qui se succèdent tout au long de l'année au Studio 158 à la Maison de la Radio. Merci évidemment aux auditrices et aux auditeurs qui nous suivent chaque jour. Vous pouvez continuer à nous écrire, à nous faire part de vos remarques et suggestions sur le site ou sur Twitter. Un grand merci à l'équipe du Grain. Julie Clarini a cité tout à l'heure Francesca Fossati, notamment Aurélie Marseille. Je ne me souviens plus des autres, pardonnez-moi, mais ils ont été cités qui avaient fait la première partie d'équipe du Grain. Je voudrais remercier depuis 5 ans tous les stagiaires qui nous épaulent et vraiment qui nous épaulent parfaitement bien sur les réseaux sociaux notamment. Et en ce moment, c'est Hugo Florent, les réalisateurs de l'émission, Jean-Christophe Francis et Anne Kobilac. Et puis toute l'équipe du bureau, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Baer. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des personnes comme celle-là. Je n'oublie pas non plus Julie Gacon qui était là les deux premières années. Et puis Mathilde Barbier qui est notre remplaçante fétiche. Elle fait partie de l'équipe. Voilà. Demain, on revient à une configuration normale. On parlera de pornographie. Tout de suite, sans transition, encore que je ne sais pas, c'est ping-pong avec Mathilde et Martin. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir et bon anniversaire.
Happy birthday, Hervé Gardette et à toute l'équipe du Grain à Moudre.
Je suis poète, j'ai pris un...